A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Et si nous faisions ensemble un bilan de mon 496 challenge? Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster, obèse de plus de 105 kilos, et après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Et maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Bon, aujourd'hui, je suis tout seul, mais on a un gros morceau à partager ensemble parce que je vais vous parler de mon bilan de mon 496 challenge qui était mon défi du mois de janvier. Je vous rappelle le principe, si on court 1 km le 1er, 2 km le 2 et ainsi de suite jusqu'au 31, ça fait 496 km. Voilà, c'est le principe. Et bien on va faire un gros bilan de tout ça aujourd'hui. Vous m'avez posé beaucoup de questions, vraiment beaucoup de questions. Je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes les questions, mais il y a vraiment beaucoup de questions. Mais avant, je voudrais vous donner 2-3 petites infos comme ça là en passant pour que vous suiviez un petit peu l'actualité. La première, c'est que je fais maintenant partie de la Red Team Altra, donc je suis un peu une sorte d'ambassadeur pour Altra, la marque dont j'ai tellement parlé depuis que j'ai lancé ce podcast, dont j'ai tellement parlé sur Instagram. Et ben je fais partie maintenant de la Red Team Altra. Voilà, j'ai appris ça la semaine dernière, j'ai reçu un mail. Qu'est-ce que ça permet? Ben ça donne en fait des infos un petit peu, ça donne aussi accès à des chaussures en essai, ça donne, ils envoient un petit peu de matériel. Voilà, grosso modo c'est ça, et puis bien sûr vous allez en entendre parler à nouveau, bien sûr j'ai des contraintes de devoir faire des photos sur mon compte Instagram pour en parler. Normalement, si je fais des courses, je dois avoir la tenue officielle Altra, ben voilà, bon bref, voilà, c'est le cadre. Mais en fait, je trouve que c'est assez sympa parce que ça rentre dans mon pool de partenaires. Je vous rappelle que j'étais ambassadeur Coros cette année, que je suis ambassadeur Happy Run, avec lequel on a monté le podcast Sport et Nutrition. Voilà, c'est valorisant, je trouve, aussi pour ce que je fais. Puis j'ai beaucoup parlé d'Altra, j'ai vendu beaucoup de chaussures avec les conseils que j'ai donnés. Il y a beaucoup de gens qui sont passés sur Altra, qui ont essayé d'Altra, des modèles, différents modèles, etc. Et donc je trouve que c'est assez sympa quand même, et même assez mérité finalement, d'avoir ce bout de cette chance de faire partie de la team Altra. L'autre info, c'est que j'ai reçu ma certification en préparation mentale la semaine dernière, c'était le résultat la semaine dernière. Voilà, donc la certification, elle est en cours de validation, donc ça c'est fait, hein, on va dire, voilà, j'ai pas le papier officiel, mais c'est en cours. Et ça veut dire que j'ai bien bossé. Ouais. Bon, après il y avait des épreuves, des vidéos, des épreuves en fait des QCM, etc., des cas pratiques, etc. Bon, tout ça a été rendu. Le jury a dit que c'était OK. En préparation mentale, bien sûr, pour moi, et je vais en parler parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées sur la partie mentale du challenge. Pour moi, l'histoire du mental, vous savez, j'ai considéré que c'était chez moi une faiblesse. Je vais vous dire dans l'épisode que je constate surtout que finalement ma faiblesse était peut-être un petit peu différente. Par contre, il y a certains outils de préparation mentale que j'ai utilisés, bien entendu, pendant ce challenge, que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois, que je peux utiliser si avec vous, si vous en avez besoin, que ce soit pour vous remettre au sport, que ce soit pour débuter un challenge, que ce soit pour préparer, pour optimiser, mais aussi parce que moi c'est une de mes caractéristiques, vous savez, je fais aussi d'autres podcasts sur d'autres thématiques, notamment la création de contenu, l'entrepreneuriat. Et je vais aussi pouvoir utiliser ces techniques-là pour finalement tous les aspects de notre vie, de votre vie. Donc si vous avez des questions, si vous sentez que vous avez des problèmes un petit peu d'une approche mentale sur un aspect qui est plus large que juste la course à pied, mais qui peut être sur finalement des projets un petit peu plus larges, eh ben j'ai des outils pour vous aider à le faire et n'hésitez pas à me contacter. D'ailleurs, je le dis aussi, il y a une grosse refonte de tout ce que je fais en ligne en ce moment depuis quelques mois. Tout est sur mon site maintenant, bertrandsoulier.com. En fait, avant, il y avait un site spécifique pour Kilomètre 42. Celui-ci, il n'existe plus. Enfin, si vous allez dessus, vous redirigez sur bertrandsoulier.com, sur lequel aussi il y a tous les autres podcasts que je fais, qui sont tous rangés ici. Et puis il y a aussi, ben, par contre, mon parcours. Il y a le récit de mon marathon, il y a le récit de différentes courses, mes premiers trails. Il y avait mes programmes de courses des autres années. Il y avait ce que j'ai pas fait cette année, hein, parce que cette année j'ai pas de programme de courses très spécifique. Hein, il va y avoir des micro défis, etc. Il y a des recettes de cuisine. Par exemple, hier dessus, je suis encore allé chercher ma recette de cuisine, mon petit mon petit gâteau yaourt bien plus allégé que ce que je faisais. En fait, il y a deux recettes de gâteau yaourt sur mon site. Il y a l'ancienne, celle de mon ancien temps, celle où je pesais plus de 100 kilos, et puis il y a celle de maintenant où j'en fais beaucoup moins. Voilà, vraiment beaucoup moins. Je suis, pour tout vous dire, je suis en dessous des 82 kilos, donc ce qui veut dire que par rapport à l'époque où j'en faisais 105, quand même, vous voyez un petit peu la grande différence. J'avais pris du poids l'an dernier avec les opérations, j'ai eu deux opérations. Je vous rappelle quand même que l'an dernier, à cette époque de l'année, j'avais un genou qui était énorme à cause du ménisque, qui avait bien enflé, on savait pas trop ce que c'était, et que j'avais été opéré du ménisque en mars, donc j'avais quand même un genou qui était pas dans un bon état, et que cette année, j'ai pu faire mon 496 challenge, parce que c'est le temps maintenant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. J'en ai pas fait 496 kilomètres, j'en ai fait 509 en fait. Oui, j'ai pris du bonus. J'ai pris un petit bonus, tout au long, en fait, j'ai grappillé, et puis je me rends compte que j'avais même pu prendre beaucoup plus de bonus que ça, et en fait je l'ai pas fait, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi au fil des questions que j'ai pu avoir. Ensuite, donc d'abord pour commencer, je vais d'abord vous remercier parce que j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement tout au long. Il y a eu des gens qui étaient un peu sceptiques, qui ont dit ouais ça sert à rien, tu vas te casser, tu vas être épuisé, tu vas te blesser, etc. Et puis non, c'était un petit peu au début. Après, il y a eu beaucoup d'interrogations tout au long. Puis j'ai eu beaucoup d'encouragements. Au fur et à mesure que la distance augmentait, j'ai eu beaucoup de messages. Je remercie par exemple Sophie qui me dit juste un énorme bravo, je suis tellement admirative. J'en ai eu beaucoup. Donc je vous fais un merci collectif, hein, un grand merci collectif. De même que je vous fais un merci collectif pour les commentaires que vous mettez sur iTunes, Apple Podcast, les notes hein, sur Spotify aussi, un grand merci collectif, un grand merci collectif pour vos messages, pour vos encouragements, pour toutes les commentaires, tout ce que j'ai pu recevoir, un grand merci. Maintenant, il est temps de rentrer dans le bilan. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai posé des questions, je vous ai demandé si vous avez des questions, j'ai reçu, je sais pas, peut-être 50 questions. Je sais pas. J'ai essayé de les classer un petit peu. J'espère que je vais pas faire des doublons, revenir un peu trop sur toujours les mêmes questions, etc. Mais j'ai essayé de les classer un petit peu. Et d'abord, j'ai eu quelques questions sur mon ressenti global. Par exemple, Delphine qui me demande si je suis content d'avoir fini. Aujourd'hui, on enregistre, on est le 2. J'enregistre le 2 là au matin. Il est 5h du matin pour, je vous donne vraiment le contexte. Oui, je suis content d'avoir fini. Parce que c'était quand même un très, 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 très gros mois. Et je peux vous dire que lundi, aux alentours de 14h, quand je suis arrivé au sommet de ma petite montagne dans laquelle j'avais prévu de faire l'arrivée de mes 31 kilomètres, de ma dernière séquence de 31 kilomètres, j'étais vraiment infiniment heureux. Alors, c'est pas la même joie que celle du marathon. Celle du marathon, j'étais vraiment très, 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 très ému parce qu'il y avait un symbole qui était beaucoup plus chargé sur plusieurs mois, etc., qui était un symbole aussi par rapport à un changement de vie, de corps, etc. Là, c'était un peu différent, mais j'ai senti, à partir, on va dire, du 25e kilomètre, surtout qu'il y avait une montée, c'était un peu dur, mais quand ça commençait à revenir un peu sur mes terrains et puis à retrouver un peu de plat, j'ai senti un peu l'émotion qui commençait à monter, repenser à plein de choses auxquelles j'avais pensé pendant ce défi, et ça a été vraiment un chouette moment d'arriver là où j'étais vraiment tellement heureux. Et je vais en reparler parce qu'il y a d'autres moments aussi où j'étais totalement euphorique et puis des moments où j'étais au fond du trou, mais vraiment je suis content d'avoir fini. Une question de Dreen Fou de Sport and Life qui me dit « Comment te sens-tu maintenant ?» Ben, je me sens bien. En fait, bien sûr, il y a de la fatigue. Je sens un petit peu, j'ai une petite douleur au-dessus du pied qui ressemble un petit peu... vous savez, hein, j'ai mon problème de sciatique depuis des mois. J'ai aussi mon problème de passement lombaire. Alors, le truc passement lombaire, je l'ai pas du tout senti. La sciatique, je l'ai très peu senti. Elle s'est un petit peu réveillée sur la fin, mais je pense que c'est surtout lié en plus à des contextes. Je peux pas vous détailler trop, j'ai pas envie de passer là-dessus sur le contexte un peu du contexte en fait familial, etc. Parce que j'en ai parlé au patron, hein, de des petites remarques que j'ai pu revoir dans la famille, de choses sur comme quoi mon boulot les surprenait, comme quoi vouloir travailler sur sa passion, hein, faire du podcast, travailler sur sa passion, c'était quand même pas très raisonnable, tout, que je devrais trouver un vrai boulot, des choses comme ça. Donc ça m'a un petit peu stressé, ça m'a mis un petit coup de stress. Et dans ces cas-là, en fait, je sens que la sciatique se réveille. Ça, c'est un constat. Je sais que ma sciatique est en grande partie émotionnelle. C'est aussi un frein psychologique qui est important. Ça, c'est une certitude parce que je vois qu'elle se réveille sur des moments qui sont un petit peu clés pour moi sur le plan émotionnel. Mais comment je me sens globalement? Je me sens très, très bien, en forme, franchement, en forme. J'avais une crainte quand même, hein, c'était que, bien sûr, on est dans les périodes de virus, bien sûr, le sport, courir autant peut générer une fatigue importante et rendre plus faible au niveau de l'immunité. Donc j'avais quand même une crainte sur le fait, est-ce que je vais pas m'enrhumer, est-ce que je vais pas être sensible au passage d'un virus ou quoi que ce soit. Et sincèrement, honnêtement, vraiment pas du tout. Là, vous voyez, ce matin, je me suis réveillé, c'était même pas 5 heures. Bon, ma fille m'a un petit peu aidé parce qu'on avait des petits réveils nocturnes en ce moment, mais là, j'ai la grande forme, la grande patate. Il y a vraiment, je me sens vraiment super bien. J'ai pas eu mal aux jambes ce matin pour descendre les escaliers. Alors que j'ai fait, vous voyez, on est mercredi matin, on est à J+2. Hein, enfin, voilà, il y a même pas 48 heures qui sont passées depuis l'arrivée du dernier segment. Bon, voilà, tout va bien. Marotami m'a dit aussi, comment te sens-tu? Donc ça, j'ai répondu, au niveau mental, physique et poids. Alors, niveau mental, j'ai eu beaucoup de questions sur le plan mental, donc je vais détailler sur le mental. Physiquement, je le redis, j'ai pas de douleur, de blessure, etc. J'avais le genou qui craquait un tout petit peu, il fait un drôle de bruit, mais bon, il a pas enflé ou quoi que ce soit. J'ai surveillé mes tibias, périostite, vous savez, ça c'est le reste du marathon, hein, de vérifier ça, parce que j'avais souffert quand même de ça. Sur le poids, je ferai le bilan aussi, je vais vous dire un truc, c'est que j'ai constaté un changement physique important, je vais en parler vers la fin parce que j'ai eu des questions là-dessus, mais je vais pas vous mentir, j'ai perdu du poids, et pourtant j'ai bien mangé, et ça fait partie, c'est ce qui me permet d'attaquer sur les questions suivantes, sur le déroulement même, parce que j'ai eu des questions justement sur comment ça s'est déroulé, comment j'ai mangé, etc. Donc voilà quelques questions que j'ai pu avoir. Quelles furent les étapes les plus difficiles? Ça, c'est quelque chose qui vous a beaucoup, beaucoup, beaucoup interrogé. Quelles ont été les étapes les plus difficiles? Qu'est-ce qui était difficile, etc. Je dois le dire, au début, quand on commence, c'est facile. Le premier, 1 km, 2 km, le 2. Le premier, franchement, quand je suis parti, quand j'ai regardé à quel moment ça s'arrêtait 1 km, je vous rappelle que je suis quand même dans 6 mois. Ça fait plus de 6 mois aussi, la semaine dernière, j'ai passé le cap des 6 mois de course en continu, c'était la semaine dernière, donc c'était le 26, et ça faisait 6 mois que je cours tous les jours, quoi, à peu près, enfin un peu moins, un peu plus de 5 mois quand j'ai attaqué le défi. Donc aller courir 1 km, enfin mon credo, mon truc, c'est de faire 1 mile, donc 1,6 km par jour minimum et 10 minutes par minimum par jour. Donc ça, c'est quand le premier je dois attaquer, déjà je prends un petit bonus, je cours 1,6 km et pas 1 km. Le 2, je suis obligé de couper mon cardio pour pas monter à 3. Le 3, je me dis, tiens, je vais essayer de faire pile 3 et mon Strava met 2,99, ça me met un petit peu en rogne, mais je dis bon, on s'en fout. Et puis après, à partir du 4 ou du 5, je rentre avec toujours des petits bonus, etc. La première étape la plus difficile, c'est celle du 10 km. Parce que déjà, c'est mentalement, on se dit, tiens, maintenant, je dois faire 10 km par jour. Ça change un petit peu la donne. Ensuite, il y a l'étape du semi-marathon. Elle, l'étape du semi-marathon, c'est une étape qui est plus compliquée, parce que forcément, c'est le moment où on se dit, tous les jours, il va falloir courir au moins un semi-marathon en équivalent. Soit en un bloc, je vais en revenir, soit en plusieurs blocs, ça aussi je vais en parler parce que j'ai des questions dessus. Mais c'est vraiment à ce moment-là, on se dit déjà maintenant, il faut que je me mette à courir un semi-marathon tous les jours, minimum, et puis ça va monter, et ça, mentalement, sur le coup, on se dit, bon bah finalement, c'est pas simple, parce que ça fait un volume important, et que j'ai pas couru tant de semi-marathons, hein. Dans ma carrière de coureur, j'ai couru un semi-marathon en tout et pour tout, officiel, dans mes entraînements, je courais pour les préparations marathon autour de 24, 25, 26 kilomètres. Dépasser les 30, je l'ai fait une fois en trail, par exemple, hein. Quand on regarde un petit peu, faire plus de 30 kilomètres, c'est pas quelque chose que j'ai fait souvent, hein. Moi, j'ai pas fait d'ultra, vous savez, j'avais dit, j'irai dans l'ultra. Ce challenge, je dois le dire, est un challenge d'ultra. C'est un challenge qui est fait pour des gens qui courent de l'ultra en volume, etc. Donc, on est plutôt allé vers de l'ultra. Cette année, je vais aller vers l'ultra cyclisme en voulant faire le gravelman, mais pour l'instant en course j'étais pas là-dedans. Donc l'étape du semi était compliquée, et puis j'avais dit qu'il y avait une étape qui était la plus compliquée, c'était pour moi le 30, le dimanche 30. J'ai dit que c'est celle qui est la plus difficile, parce que le 31, ça roule tout seul. On se dit, bon, maintenant, je suis au bout, c'est bon, ça va le faire, etc. C'est la cerise sur le gâteau. J'ai dit un petit peu, vous savez, c'est un petit peu le glaçage sur le millefeuille. Moi, j'adore ça, mais si vous n'avez pas les millefeuilles, enfin, toute la crème et les feuilles en dessous, le glaçage, il n'a aucun sens. Mais le glaçage en lui-même au-dessus, il est super bon. Vous voyez ce truc-là? La cerise sur le gâteau. Si vous adorez la cerise sur le gâteau, si vous n'avez pas le gâteau, la cerise, elle a quand même moins de charme. Mais si vous avez le gâteau sans la cerise, ça n'a pas de charme non plus. J'avais dit aussi que c'est un petit peu, je reprends l'image de ce que j'avais dit sur la préparation marathon, sur le marathon en lui-même. Le marathon, finalement, c'est la grande fête qui vient couronner la préparation marathon. Mais quand on regarde un petit peu, un marathon, ça fait 42 bornes, et sur la préparation marathon, vous avez fait des centaines de kilomètres. Si vous courez, on va dire 40 ou 50 ou 60 kilomètres par semaine pendant 12 semaines, vous courez 400, 500, 600 kilomètres et vous avez le marathon qui représente 10% de la distance. Et ben le 31 c'était à peu près pareil, c'est-à-dire que ça représente un fragment qui représente même pas 10% finalement, de même pas 10%, mais c'est la fête, c'est le moment où on fête ça. D'ailleurs, ma dernière séance, c'était je me suis fait une balade. Je suis allé sur des lieux un petit peu de pèlerinage. Je suis allé voir là où j'ai commencé à rêver, par exemple, de faire du sport, là où j'habitais quand j'étais gamin. Et je me suis revu à ma manière, parce que j'ai pas les images vraiment. Je me rappelle à quoi ça ressemble. Je suis capable de décrire, mais les images ne se font pas dans ma tête. C'est comme ça. Mais par contre, je suis allé là et je me suis rappelé de quand j'ai été champion, quand on gagnait Roland Garros, quand on faisait le Tour de France, etc. Sur une allée derrière le bâtiment où j'habitais, j'ai vu l'école où j'ai un prof de sport qui était vraiment génial, qui nous a fait faire tout un tas de sports. Je suis passé par endroits où je jouais un petit peu au foot à un moment, où j'allais voir des matchs. Quand j'étais gamin, où je rêvais de devenir sportif pro. Et puis j'ai aussi vu là où ça commençait un petit peu à déconner, notamment parce que j'avais mal aux genoux, etc. Le collège, où tout ça a commencé un petit peu à déconner, où déjà le sport est devenu plus compliqué, hein, physiquement. Et puis ensuite, la suite des choses a parti avec les études, etc. Moins de sport et autres, et puis plus tout de sport. Mais bon, j'ai pas fait le tour non plus. Et puis il y aura un moment où il faudra que j'aille à Paris pour faire un fin de pèlerinage. Et là, ça faisait vraiment trop loin dans une sortie de 31 km. Donc voilà. Les grandes étapes les plus dures, je redis, hein, c'est vraiment de se dire le 10, vraiment, parce que jusqu'au 10, c'est franchement cool, hein, parce que il y a très souvent dans mes séances en quotidien, je m'en faisais 5, 6, 7, etc. Là, le volume jusqu'au 10, il n'est pas vraiment très important. Hein, si on prend franchement le total de volume de d'entraînement sur cette partie-là, il est pas non plus vraiment très 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 important. Ça monte petit à petit, ça monte doucement, hein, soyons honnêtes, ça monte vraiment tout doucement, tranquillement. C'est à partir de là que ça commence à augmenter. La première semaine, elle fait 40 et quelques kilomètres le total, hein, entre le premier c'était quoi, c'était un samedi, donc on va dire la première semaine. Je suis en train de regarder en même temps, je suis parti sur Strava, je vous rappelle, vous pouvez me retrouver sur Strava. Du 3 au 9 janvier, je fais 43 km, vous voyez, et le 9 janvier, c'est là où il y a les 9,5. À partir de la base des 10 km, ça commence à faire 94 km, parce que ça fait 10, 11, vous voyez, hop. Donc là, ça commence à faire 94 km. Moi, 94 km, c'est quelque chose que je ne faisais pas d'habitude. Donc déjà, je rentrais dans des distances que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant en volume horaire, j'ai envie de dire, sur la semaine. C'est pas quelque chose que je fais. Moi, je préfère courir autour de 50, 60. Souvent, ma barrière, c'est de dire, bon, je passe la barrière des 50. Mais passer la barrière des 100, pratiquement cette semaine-là, et puis après 142, et puis la dernière semaine, 192, et puis après, il restait le jour à 31, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Je vous rappelle quand même que les trois derniers jours, 29, 30 et 31, ça fait 90 jours au total. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, vraiment jamais fait. J'ai pas préparé d'ultra, j'ai pas fait de week-end shock, des choses comme ça, donc ça, je n'avais jamais fait. Donc voilà un petit peu les grandes étapes. Une question qui m'était posée, j'en ai eu plusieurs sur le corps. Et comment j'ai fait pour ne pas me blesser? Eh ben, je pense que déjà le fait de courir tous les jours, j'ai mon corps qui est un peu habitué. Je sais aussi comment je dois faire attention à ma foulée, à pas dégrader ma foulée, faire une rotation des chaussures. J'en reparlerai parce que j'ai une question aussi sur cet aspect-là, mais faire une rotation des chaussures. Là, j'ai tourné avec trois paires de Altra, mais qui sont pas tout à fait faites pareil, qui ont pas les mêmes retours, qui ont pas la même usure non plus. Bon, je peux vous dire que mes Escalantes grises que vous voyez souvent sur mes photos, elles ont bien morflé hein, parce qu'elles ont quand même pris. C'est avec elles que j'ai fait une grande partie parce que c'était pour moi les plus souples, celles qui ont le plus amorti. Donc voilà. Après, j'ai des Vanish XC. Alors pour ceux qui connaissent Vanish, il y a quasiment pas de semelles. C'est le modèle le plus minimaliste, vraiment très peu de semelles, la mèche très très fin. Et puis au milieu, j'avais aussi mes Altra Escalant Tracer qui sont des chaussures un peu plus rapides, un peu plus dynamiques. Voilà. Donc j'ai tourné là-dessus. Donc ça faisait partie des éléments. Bien sûr, faire attention au niveau de pas passer. J'ai essayé par exemple d'éviter d'avoir trop de dénivelé, trop de chemin, même si au bout d'un moment j'ai quand même pas mal de dénivelé. Je fais plus de 10 000 mètres de dénivelé hein, sur le mois. Donc si on compte que 1000 mètres de dénivelé à chaque fois, c'est l'équivalent d'un kilomètre de plus. Quand on en fait 10 000, vous vous rendez compte le nombre de kilomètres que ça fait. Donc il y a des jours vraiment où j'avais. D'ailleurs, j'ai une remarque, quelqu'un qui m'avait dit, mais tu peux pas faire ce challenge en ayant autant de dénivelé tous les jours. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans ma stratégie, il y a un moment donné où, au lieu de monter sur mes petites montagnes, d'aller tourner sur les montagnes que je faisais au départ, je suis parti courir dans la plaine. Il y a même des séances que j'ai faites totalement de nuit sur une portion de 2 km autour du stade qui c'est plat, quasiment c'est plat, enfin il y a très peu de dénivelé, il y a un petit tape-cul, il y a un petit faux plat, mais et donc là par contre si je devais faire 30 bornes dessus, ça faisait 15 tours. J'ai jamais fait 15 tours, ce que je partais c'était courir plutôt dans la zone plate, mais je reste en Auvergne hein, c'est-à-dire qu'après il fallait que je rentre à la maison, la côte pour remonter, j'ai presque 70 mètres de dénivelé pour remonter si je partais dans la descente. Donc enfin j'ai eu des stratégies par exemple pour allonger le temps de descente, c'est-à-dire que d'habitude ce que je fais c'est que je prends la descente la plus raide, puis quand j'arrive en bas je fais du plat. Quand je veux faire ça, quand je veux faire les séances de vitesse, et ben là en fait j'ai appris au départ à monter, ou plutôt de la monter de façon raide. Je m'étais dit tiens, si tu passes par ce chemin là il y a un petit faux plat, puis après il y a un virage raide, et puis après il y a un autre faux plat, puis après c'est du plat, ça te permet de relancer. Donc au lieu de descendre un truc qui faisait 600 ou 700 mètres d'abrut, et au lieu de le remonter, ce que j'ai commencé à faire, c'est de le remonter en faisant des grands lacets qui me permettaient de faire 2-3 kilomètres, comme ça, et puis en descendant de la même manière, c'est-à-dire d'avoir une descente qui finalement soit plus longue, mais avec toujours la vitesse de descente qui soit aidée par la descente. Ça fait partie des stratégies pour finalement baisser un petit peu la fatigue, faire que ce soit plus facile. Et puis à la fin, j'ai un petit peu changé de stratégie. C'est que par moment, je prenais en fait les moments les plus raides, je les marchais en montant, hop, et puis après, je trouvais des moments de plat. Donc j'ai changé un petit peu ça, mais ça faisait partie aussi pour ne pas me blesser, c'est-à-dire que c'est pas courir trop vite, c'était de trouver une vitesse qui me permette de continuer à courir. Et puis j'avais eu un conseil de Phil Ufo sur Instagram, Phil Bellard, dont j'avais eu dans un épisode, et puis qui lui fait l'ultra, qui est dans un défi, ça fait plus de 1000 jours, qui court au minimum tous les jours 10 km. Il m'avait dit, ton corps, au bout d'un moment, il va couiner. Au bout de 10-15 km là, par jour, il va commencer à couiner. Il me dit, tu dois juste te concentrer sur le fait que tu vas faire la distance et puis faire de l'alternance, genre marcher 100 mètres et courir 900 mètres. Donc tous les kilomètres, mettre 100 mètres de marche. Alors moi, j'ai pas fait du mathématiques comme ça, de regarder. Ce qui s'est passé, c'est juste qu'il y a des moments où j'ai besoin de marcher. Et donc, je me suis mis à marcher. En essayant par contre de ne pas m'arrêter. Alors bien sûr, je me suis beaucoup arrêté pour des photos. Il y a des jours, je pestais contre moi parce que je faisais trop de photos, mais j'avais envie. Il y a des moments, des trucs qui étaient trop beaux, je faisais des photos, etc. Mais j'essayais parce que je me suis rendu compte aussi à la fin que si je m'arrêtais trop, j'avais du mal à repartir. Donc ce que je faisais en fait, et je pense que j'ai augmenté ma vitesse de marche au fur et à mesure, c'est de dire, il y a des moments, plutôt que de m'accrocher à vouloir courir absolument, je marche. Le but du jeu n'était pas d'avoir un temps, mais le but du jeu était d'arriver au bout. Vraiment, ça c'était important. Ça veut dire que mentalement, je vais en parler à la fin, ça m'a aussi demandé une certaine mécanique particulière. Notamment, je vais vous parler d'ego à la fin, parce que mon ego, quand même, a un petit peu travaillé dans l'histoire. Donc ça fait partie aussi de la stratégie pour pas me blesser. Et puis, j'ai essayé, bien sûr, de faire attention à mon alimentation, mais là, je vais y revenir. Nutrition, sommeil, etc. J'essaie de faire un petit peu attention. Riri qui me demande, as-tu une défaillance musculaire à courir tous les jours? Non, franchement non. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu quelques douleurs. Une petite douleur dans le mollet, qui était 2-3 jours, un mollet un peu raide. Je me suis mis à masser avec des huiles essentielles. Tu mélanges, tu as une baume de tigre aussi, des choses comme ça. Donc voilà. J'ai eu pas de douleur sur les tendons, sur le ménisque, sur les choses comme ça. Donc non, vraiment pas ce type de douleur-là. Alors bien sûr, il y a eu un petit peu de sensation, les cuisses un peu raides un certain jour. Je dis, la seule douleur que j'ai finalement, c'est cette douleur sur le dessus du pied. Donc je surveille un petit peu. À un moment donné, je me suis même demandé si c'était pas mes chaussures qui étaient la languette de mes chaussures qui était mal placée ou quoi que ce soit, parce que ça appuyait toujours au même endroit que d'un côté. Mais ça le fait tout le temps en fait. Ça fait tout le temps. Sur le dernier jour, j'ai desserré mes lacets Gorilla en fait. J'ai un petit peu desserré. Mais ça n'a pas changé grand chose. Donc ça venait pas de ça. Le serrage était bon pendant des années. Enfin, ça fait 800 ventes que je cours avec ces chaussures et ces lacets réglés comme ça. Donc il n'y a pas de raison que ce soit ça. Est-ce que j'ai eu une défaillance? Non. Mes orteils ont un petit peu souffert. J'ai des orteils qu'on prend un peu cher. Ils sont un peu noirs. En fait, je me suis rendu compte que ma taille de pied a un petit peu changé depuis que je fais du court pieds nus, sandales, etc. Et notamment, ça se matérialise sur le fait que mes Altra Escalentresseurs sont peut-être un peu petites maintenant. Elles avaient la même taille que mes escalantes avec lesquelles j'ai fait le marathon de Paris. Donc vraiment côté chaussons, etc. Maintenant en fait je prends une taille de plus par rapport à cette époque-là. Ça vient aussi que mon pied il a un petit peu changé de format en fait. Il s'est un peu élargi. Soyons honnêtes, il est devenu un peu plus fort, un peu plus puissant. Et donc, quand je prends dans les escalantes Racer, alors si c'est pour faire 5 km, il n'y a pas de problème. Mais un jour, je crois que j'ai fait mon semi-marathon avec. Et à la fin, je sentais que ça tapait un petit peu. Et j'ai les ongles, surtout sur un côté. Alors pourquoi un pied plus que l'autre, c'est le grand mystère. Mais j'ai pris des ongles noirs, voilà. Donc, j'ai pris un nouveau maquillage de mes orteils. J'ai essayé de percer un petit peu. Il y a 2 jours, j'ai réussi à vider un petit peu pour essayer de sauvegarder les ongles. On va voir ce qui va se passer quand même, hein. Si ça tient, si ça tient pas. Mais je vais pas vous faire les photos parce que c'est pas très beau. Et puis vous savez ce que c'est les ongles noirs, hein. On a tous ça dans la course à pied, ça à force de taper. Mais je l'avais pas trop sur ces derniers mois, je l'avais pas eu. Là, c'est vraiment l'accumulation des kilomètres qui fait que ça s'est fait. J'ai eu des questions sur la récupération maintenant. Lorwendil, ou je sais pas comment dire, qui me demandait comment as-tu géré la récup, surtout en fin de mois avec la distance qui s'allonge. Alors, j'ai la récup. Il y a un premier truc déjà, c'est que j'essayais de faire attention à mon alimentation, ce que je n'avais pas trop fait au départ. Et j'ai une autre question, par exemple Estelle Nice qui me demande comment j'ai géré la récup si j'avais pas de courbature. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'ai pas trop fait attention parce que j'avais l'habitude. Courir 50 km comme ça dans la semaine, c'était pas un problème. Donc là-dessus, j'ai pas trop fait attention. Petit à petit, j'ai senti quand même que ça commençait à être un peu plus fatigant, à tirer un peu plus. Et surtout, je me suis rendu compte, et ça me permettra d'aller sur des questions d'alimentation après, j'en reparlerai, mais que ça allait se jouer notamment sur l'alimentation, sur ma capacité à manger. Et ça, bon, vous savez, avec Sport Nutrition, on en parle souvent dans le podcast, j'en parle souvent avec mes invités, c'est vraiment l'une des clés, et là, c'est vraiment l'une des clés vraiment très importantes. J'ai essayé aussi de faire attention à tirer un peu mes muscles, etc., mais sans trop les étirer, justement, sans trop tirer dessus. Faire en fait que certains mouvements pour étirer par rapport mes tibias, périostites, etc., c'est toujours la crainte que j'ai, hein. c'est une crainte que j'aurai, je pense, très longtemps. Ça, c'est l'expérience du marathon de Paris, enfin de la préparation du marathon de Paris et surtout du premier marathon, le marathon de Lyon, pour lequel je n'ai pas pu courir parce que je m'étais blessé 15 jours avant, qui était de marathon qui tombait pratiquement le jour de mon anniversaire. Ça, c'était comme ça. J'ai gardé cette trace en moi, on va dire, de taper sur mes tibias, de vérifier que ça fait qu'il n'y a pas de que le périoste s'enflamme pas ou quoi que ce soit, tous ces trucs là. Donc ça, je faisais un petit peu attention, et puis petit à petit, au fur et à mesure, je massais un peu tous les jours, hein. J'ai écouté un peu les conseils de Monsieur Récup de masser avec des huiles essentielles. J'ai essayé l'ylang-ylang avec de l'huile d'amande, j'ai mis différentes huiles essentielles. Ma femme, dans ses études de naturopathie, elle avait fait aussi quelques mélanges, etc. Puis il y a aussi du baume du tigre maison, tout un tas de trucs comme ça. J'ai essayé de masser un petit peu comme ça. Tibia, ça sert à rien, tant que tel, mollet, cuisse, le dessus des cuisses un petit peu pour Y a eu quelques raideurs certains matins, mais voilà, c'était vraiment le cœur de la récupération, c'était ça, et puis du sommeil. Alors le sommeil la nuit était un peu perturbé parce que ma fille se réveille régulièrement la nuit à nouveau, elle a des petits problèmes de ventre, de fesses, des choses comme ça, des problèmes des fois de s'endormir, des fois elle se réveille, par exemple là, pour tout vous dire, cette nuit elle s'est réveillée 3 fois, et puis je crois que la nuit avant le 30 elle s'est réveillée 3 ou 4 fois. Donc autant vous dire que le 30 au matin, j'étais pas de la première fraîcheur, et pourtant il fallait partir assez tôt. Enfin normalement j'aurais dû partir assez tôt, finalement ça s'est un peu goupillé. Sinon le 30 au matin, qu'est-ce que je vous raconte, je suis parti vraiment très tôt pour arriver à faire ma séquence. Je suis en train de mélanger les jours au fur et à mesure, à force de tout mélanger, mais c'est comme ça, hein, c'est le sommeil, je pouvais pas faire tout ce que je voulais, parce que j'ai une contrainte notamment aussi. Bon, bien sûr, il y a ma fille qui va à l'école normalement. Bon, il y a des jours où elle est pas à l'école, elle était un peu malade, etc. Donc ça amène une contrainte, j'en reparlerai, parce que c'est là où ça a failli capoter certains jours. Et puis ma femme fait des études en naturopathie, et notamment c'est le week-end ses études, donc c'est le samedi et le dimanche. Alors il y a des jours elle est très fatiguée en ce moment, il y a des jours où elle n'y est pas allée, mais elle est allée le dimanche, le fameux 30. Et pour y aller le dimanche 30 en fait, ça veut dire que moi par exemple j'ai fait des séances le matin. Je vais vous donner l'heure de mes séances, comme ça vous allez comprendre. Le samedi 29 j'ai fait ma séance, je suis parti à 4h27 de la maison pour faire 22 km 7, et le dimanche 22 km aussi, en partant à 4h48, parce que c'était 2 jours, elle avait formation, sa formation. Bon, il se trouve que le samedi, il n'y est pas allé, donc j'ai pu courir dans la journée assez facilement. J'ai pu arriver à faire à placer ce qui me manquait, les 7 km à aller faire. Alors, à un moment donné, je suis allé faire avec ma fille Camille, on est allé au marché, vous savez, c'est... Et puis le lendemain, on était au plan d'eau avec le vélo. C'est à petite foulée, quoi. C'est vraiment pas très rapide, mais bon, c'est toujours. Ça fait partie un petit peu du créneau de ça. Et puis de compléter par une séance en fin d'après-midi. Voilà, c'est à peu près ce genre de choses comme ça qui passaient. Mais c'est vrai que, par exemple, c'est souvent que le matin, j'ai des séances qui ont de 22,7, 22, qui correspondent en fait à un parcours. C'est je descendais un petit peu à droite à gauche dans la plaine, je faisais quelques tours. Je faisais un tour de ma fameuse piste, etc. Puis après, de remonter. Il se trouve, par exemple, que la dernière semaine, j'ai 3 séances qui sont à 22,7, 22,7, voilà. Et que le point commun, c'est que je pars à 5h10 du matin, 4h27, 4h48. Et que là, c'est des jours, en plus, il faisait moins 3, moins 4 degrés en ressenti le matin. Oui, moins 3, moins 4. Je vous parle même pas du vendredi 28, qui était un jour un peu incroyable. C'est-à-dire que c'était tellement verglacé que je pars me dire, bah tiens, je pars pour une séance de 20... J'ai prévu de faire pratiquement tout sur la matinée. Et en fait, j'ai mis peut-être 1 heure pour faire 1,5 km. Tellement c'était verglacé, on tenait pas debout sur les trottoirs. Un des trucs, c'est que j'amène ma fille à l'école. En fait, quand j'amène ma fille à l'école le matin pour 8h30, je pars en short, en tenue, parce que je cours toujours en short. Donc je pars en tenue de course, et puis je la dépose à l'école, je l'amène jusqu'à la classe. Hein. Alors maternelle, ma fille, petite section, donc on l'amène jusqu'à la classe, on fait pipi, on lave les mains, etc. J'amène jusqu'à la classe, je la confie à l'instit, et à la maîtresse, et puis ensuite je pars courir. Et là, déjà, pour descendre jusqu'à l'école, c'était une patinoire, on tenait à peine debout. Et puis ensuite, le trottoir devant l'école était encore plus glissant, la route était glissante, etc. Et à un moment donné, j'étais obligé de repartir, je tenais pas debout, je regardais mes baskets, j'ai dit bon, elles sont bien lisses, mais... Et en fait, on avait pris une sorte de brouillard verglaçant. Et que le lendemain, j'ai constaté, parce que le samedi matin, je pars, la météo, bah, il faisait moins 3, mais c'était pas verglacé, puis je voyais les saleuses qui tournaient, et c'est vrai qu'aux alentours de 5h30, 6h, il s'est mis à faire un brouillard qui est monté, qui est devenu très très verglaçant, mais comme ils avaient bien salé finalement, et là où je courais, c'était encore de la terre et autres, bah c'est passé, vraiment c'est passé. Mais on peut le dire, hein, il faut remercier ma frontale, et on va remercier aussi les services de salage de la ville où j'habite à Cournon, c'est pas eux qui m'ont salé pour moi, mais il y a des moments où je voyais qu'il y a du sel, je marchais dessus un peu exprès pour mettre un peu, et me dire bon là je sais que je peux passer sans aucun problème. Mais c'est vrai que sur la dernière semaine, j'ai quasiment tout le temps des séances nocturnes. entre des départs 4 heures, des choses comme ça. Il y a juste le lundi, il y a juste un jour, j'ai fait le lundi après-midi, j'ai fait ma séance le lundi après-midi. Mais sinon, enfin ma séance complète le lundi après-midi, mais sinon souvent c'était des morcelés et beaucoup de séances tôt le matin. Ça c'est l'un des éléments importants et qui rentre dans des questions que j'ai eues plus tard ensuite, notamment sur la gestion globale des choses. J'ai une question qui m'était posée par Trailers du 76. Alors Trailers du 76, déjà je dois le dire, félicitations parce que elle aussi elle a fait le 496 challenge. Je voyais ses messages, etc. Je l'ai encouragée. Elle m'a demandé si j'ai bien dormi. As-tu bien dormi pendant cette période? As-tu vraiment changé tes habitudes, sommeil, alimentation? Alors, est-ce que j'ai vraiment changé mes habitudes, sommeil, alimentation? L'alimentation, un petit peu. Parce que je me suis rendu compte à un moment donné que je mangeais peut-être pas assez. Et notamment, j'ai augmenté ma dose en protéines, j'ai même fait des trucs que je ne faisais pas. Par exemple, sur la dernière semaine, j'ai acheté du skyr. Au début, en fait, ce qui se passait, c'est que je pouvais courir. Moi, je pouvais courir à jeun une heure et demie le matin sans aucun problème. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça commençait à tirer un petit peu. Donc, à partir du fameux 10e kilomètre, entre 10 et 15, déjà comme la distance allongée, ce qui s'est passé, c'est que déjà, je me suis mis à partir systématiquement avec un stick de miel à Pyrone, des fois une barre, une des barres qu'il propose. Ça, c'était le truc. Et à la fin, sur 2-3 séances, je faisais un vrai petit déjeuner, gâteau de course, le gâteau de course à Pyrone, stick dans la musette, dans les poches pour partir, de l'eau, voilà. Je rajoute donc du skyr, vous savez, c'est yaourt avec des protéines, là, fromage blanc un peu plus protéiné, etc. Pour augmenter ma dose de protéines, ça c'était vraiment l'un des points essentiels que j'ai modifié un peu dans mon alimentation. J'ai fait un peu plus attention à ça. Dans mes porridge le matin, après en rentrant, je faisais un peu plus attention à ça. Je me suis fait quelques smoothies dans lesquels je mettais la poudre de chanvre, de choses comme ça. Alors je n'ai pas acheté des BCA, je n'ai pas acheté de la poudre chimique chez les fabricants de vendeurs de poudre, de muscu, etc. Non, ça j'ai pas fait. Par contre, j'avais j'avais des mélanges de comment ça s'appelle, Iswari, la marque là que j'avais acheté. Donc il y a par exemple de la protéine de cacahuète, des choses comme ça. J'ai un petit peu augmenté ma dose de consommation de purée cacahuète, j'essaie de faire des variations, mettant aussi purée d'amande, un petit peu des choses comme ça. Je mangeais plus de pain, pain, beurre avec du jambon, des petits sandwichs comme ça dès le matin en rentrant, des choses comme ça pour vraiment manger dès que je rentrais de mes séances du matin. Donc ce qui se passait, c'est que je partais courir tôt et puis je revenais vers 7h et puis je prenais le petit déjeuner avec ma fille. Et donc c'était un petit sandwich jambon beurre avec elle, elle adore ça aussi, voilà. Des collations, plus de collations, je mangeais plus de bananes. Au lieu d'acheter 6 bananes, j'en achetais 12 ou 15, voilà, des petits trucs comme ça en fait. Faire attention, les fruits, je fais toujours attention, les légumes, je fais toujours attention. Des fois, vous auriez vu la portion de choux, je me l'ai mangé hier, elle était juste énorme. Là où par contre, j'ai pas trop fait, c'est que on avait prévu avec ma femme que je bois plus de jus de légumes, des jus verts. Je voulais prendre de l'eau de Quinton, ça je l'ai pas fait, j'ai fait une fois ou deux. D'ailleurs, ma femme elle m'a dit t'as exagéré là-dessus, tu as pas fait et tout. Et elle a raison parce que ça m'aurait franchement peut-être aidé, je sais pas, mais en tout cas j'aurais dû le faire. Donc ça, j'ai pas trop changé. Sur le sommeil au départ, j'ai dit hein, avec ma fille qui se réveille un petit peu, hein, c'est un petit peu compliqué dans sa gestion globale un petit peu, on va dire en ce moment. Et puis une bonne année quand même, mais bon, c'est comme ça. Donc il y a eu quand même pas mal de réveils dans la nuit, des choses comme ça. Mais ce que j'ai surtout fait, c'est essayer de faire attention à me coucher plus tôt sur la fin. En fait, moi je suis mon sommeil depuis très longtemps avec un système de bullet journal. Donc j'ai un cahier dans lequel je note mes heures de lever, de coucher et aussi de sieste. Et ça fait partie des choses. C'est que j'ai tracé une ligne rouge à 22h. Et c'est la ligne normalement que je dois pas dépasser pour... Normalement, j'aimerais ne jamais la dépasser dans l'année. Bon, il se trouve que souvent, je la dépasse depuis 3-4 mois. Et donc là, en fait, je suis revenu plusieurs fois à me recoucher autour de 22h. Même un jour 21h45, voilà, dans ces zones-là, autour de 22h. Surtout que les jours où je mets le réveil à 4h pour aller courir à 4h15, 4h20, franchement, le but, c'était d'essayer d'avoir 5 à 6 heures de sommeil. Si ma fille ne se réveillait pas, d'essayer d'avoir les 5 à 6 heures de sommeil. Bon, il se trouve que des fois, je les avais pas. Ça, c'est le point faible du truc, c'est de d'arriver à placer le... Et un des jours, je me suis dit, il aurait fallu que j'aille me coucher en tant que ma fille. C'est-à-dire que, mais bon, dans ce cas-là, après, la vie de famille, c'est un peu compliqué. Et puis, même pour préparer quoi que ce soit, enfin, pour arriver à préparer des choses pour le lendemain, préparer mes affaires et tout, bon, c'était pas trop jouable. Mais des fois, hein, c'est vraiment le truc, hein, c'est de dire, si ma fille, à 8 heures, elle dort... des fois même d'ailleurs je me pose dans le canapé, je suis capable de dormir à cette heure-là, mais ce qui se passe après c'est que je suis réveillé plutôt à 3h30, 4h, ça va pas me permettre de dormir jusqu'à 5h en fait, je vais pas dépasser comme ça, je vais pas le faire. Des fois par exemple je peux me coucher à 21h30 parce que je suis très fatigué un soir et puis me réveiller le lendemain à 4h30 en me disant bah tiens j'aurais voulu allonger la nuit, en fait j'allonge pas le temps de sommeil. Par contre, et puis vous allez entendre un jour dans un, parce que j'ai fait un épisode, il est enregistré avec un invité dans Sport Nutrition, où on parle du sommeil, justement, où il donne des créneaux horaires. Et vraiment, le créneau horaire de 22h à 1h du matin, pour moi, il est très important. Et en fait, il est important pour nous tous. On devrait faire très attention à ce créneau. Normalement, c'est là où on devrait dormir. Vraiment, c'est là où on a le meilleur repos. Hein. Il a fait des analyses sur des marins, sur plein de gens comme ça. C'est vraiment les créneaux où il y a le plus de repos, le plus important. Donc, c'est le créneau 22h à 1h. Là, on a du mal, hein, 22h, hein, c'est un peu compliqué, mais vraiment se dire jamais dépasser. Moi, le truc, c'est être 22h au lit, lire un peu, m'endormir, et puis ensuite, la nuit, si je suis réveillé à 4h du matin, c'est pas très grave finalement en soi, mais c'est avant que c'est important. Et puis, sur le sommeil aussi, c'est j'ai introduit tous les jours une sieste, mais ça fait très longtemps que j'ai introduit une sieste. J'ai la chance de pouvoir travailler à la maison volontairement, hein, d'être toujours à la maison. Ça c'est mon choix et puis j'ai même augmenté ce choix en arrêtant de faire des cours à la fac. Je faisais des cours à la fac pendant 10 ans, hein. Je faisais jusqu'à 300 heures de cours à la fac. Ça j'avais arrêté il y a 2 ans volontairement en fait, et puis j'avais décidé d'arrêter, puis le Covid est arrivé, donc ça a même accéléré les choses et j'étais assez content d'arrêter. Mais j'étais maître de conférence associé, hein, à une université, si pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le contexte global. Donc j'ai arrêté ça pour faire du podcast, pour faire de la vidéo, pour faire vendre des formations en ligne, etc., notamment sur le sommeil, l'alimentation, les habitudes, tous ces trucs là j'ai des formations. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai appliqué ce que je fais dans mes ce que je dis dans mes formations. Et en fait, moi, je travaille par des créneaux de temps. Enfin, j'organise ma journée par des créneaux de temps. En disant, le matin, je me réveille à 5h, de 5h à 7h, je vais travailler sur tel truc. Et donc, ensuite, j'amène ma fille à l'école. Ensuite, je travaille sur tel ou tel truc. Ensuite, je vais courir. Et donc, ça, c'est des plages qui sont vraiment planifiées, vraiment. Hein, c'est ce qu'on appelle du time blocking. Et donc, quand je commence à planifier ma semaine, ce que je fais, c'est que je planifie toujours les moments les plus importants, ceux que je vais réserver pour la chose la plus importante de la semaine. Et la chose la plus importante de la semaine, par exemple la semaine dernière, c'était d'aller courir tous les jours. Et donc je planifiais des créneaux de temps en disant, tel jour tu vas courir et tout. Et puis je planifiais aussi les créneaux de sommeil, et notamment le créneau de la sieste. Par exemple, le créneau de la sieste, autour d'entre 13h, 13h30, on va dire, jusqu'à 14h30, c'est le moment lecture-sieste. Voilà, c'est le moment lecture-sieste, c'est ce moment-là. Tous les jours, quasiment, j'ai fait la sieste, quasiment tous les jours. Il y a peut-être un jour ou deux, j'ai pas pu la faire pour diverses raisons, mais quasiment tous les jours, j'ai fait la sieste. Et donc, une petite demi-heure de sieste, ça permet de faire démarrer la machine. Et puis en plus, vous allez entendre dans ce fameux épisode de Sport Nutrition, il y a un créneau là, dans ce créneau 13h-15h, où le sommeil est très efficace aussi. Voilà, donc est-ce que j'ai changé mes habitudes ? Pas vraiment en fait, on va dire que ça m'a obligé à revenir sur mon habitude de sommeil, mais c'est une habitude de sommeil qui était installée depuis assez longtemps, c'est mon habitude de sommeil idéal. Ça m'a permis de revenir sur cette habitude de sommeil idéal, d'essayer de m'en rapprocher à nouveau, et le but du jeu maintenant c'est d'essayer de la conserver. J'ai eu des questions ensuite sur l'organisation, par exemple Gipsal qui me demande comment gérer le temps sur à courir et le travail, la vie de famille. Alors, moi je le redis, je me suis créé une vie un peu sur mesure, que j'espère pouvoir pérenniser. Il y a des petits soucis de pérennisation en ce moment. C'est pour ça notamment qu'il y a la pub sur le podcast. C'est pour ça que il y a les Patreons. C'est pour ça que je vends des formations en ligne. C'est pour ça que je vous propose du coaching. Enfin, pas du coaching, mais de l'accompagnement, en fait. Je vous dis, par exemple, en préparation mentale, si vous avez des questions, des choses comme ça, je peux faire de l'accompagnement pour en discuter. Je peux vous faire des plans. Je peux faire un suivi, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que je vais proposer, que je vais faire, que je propose déjà en création de contenu, en podcast. J'ai des gens qui veulent lancer un podcast, à se lancer, à monétiser, etc. Tout ça, c'est des choses que je fais. Donc, Mon travail à moi, il est vraiment à la maison. En fait, je ne sors de la maison que pour aller courir et pour faire aller chercher ma fille à l'école, aller courir et faire les courses. Et puis avoir un peu la famille, des choses comme ça. Voilà, grosso modo, c'est ça. Hein. Grosso modo, c'est ça. Actuellement, c'était ça. Vous pouvez trouver que ça fait un peu une vie de moine, un petit peu dans ce truc-là, mais en fait... Le contexte sanitaire fait aussi que c'est comme ça. Il y a des jours où on peut pas aller voir la famille parce qu'il y en a qui sont en contact. Puis il y a des jours, bon, ils nous tapent un peu sur le système en disant il faudrait faire ci, il faudrait faire ça et tout. Donc voilà, il y a des moments où on dit bon, on préserve notre cocon, etc. Vraiment, je le dis très honnêtement, vraiment très honnêtement, parce que si je disais aux gens autour de moi oui, aujourd'hui je dois courir 3 heures, dans la famille, il y en a certains qui me regarderaient avec des grands yeux en disant ouais, tiens, t'es bien drôle toi, mais est-ce que tu crois que tu peux passer ta vie à courir 3 heures, faudrait trouver un vrai travail, etc. On revient là-dessus. Donc comment gérer le temps à courir entre le travail, la vie de famille, etc. Mais je le redis, c'est mon fameux time blocking, c'est mes fameuses zones. Alors ça, c'est quelque chose que je propose dans des formations hein, qui sont sur mon site. C'est ce que j'appelle gérer, comment on gère le chaos de son planning en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que généralement, on a tendance à gérer son planning en plaçant le travail, en plaçant la famille, etc. Et puis en mettant le sport là où il y a des trous. Et moi, je fais l'inverse. C'est-à-dire que je place ma séance, comme je considère que la chose la plus importante de mon temps, c'est m'occuper de ma fille quand il y a des moments où elle est réveillée, il faut l'amener à l'école, etc. Puis courir, dormir, se reposer, etc. Je place ces moments-là. Et ensuite, dedans, je vais plugger le travail, en fait. Et puis la vie de famille, bien sûr, c'est les repas, c'est un petit peu de temps avant d'aller dormir le soir. C'est ma femme travaille aussi à la maison, hein. Donc on a plein de temps où on est ensemble, en fait, à la maison. Donc c'est comme ça. Donc c'est comment je plug, en fait, ces bouts de temps de cette manière-là. Et en fait, je dois le dire, la plus difficile dans le projet, ça a été le jour où ma fille a un petit peu contrecarré ces plans-là, parce que il y a des jours, elle a pas voulu aller à l'école, elle se sentait pas bien, etc. Donc il y a environ, déjà elle va à l'école 4 jours par semaine, hein, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Il y a environ un jour par semaine, systématiquement un jour par semaine, où il y a eu un jour d'école qui a sauté. Et puis il y a notamment aussi le mercredi matin où elle va au yoga de 10h à 11h. Moi, ce qui se passe, c'est que je l'amène au yoga. Et puis pendant ce temps-là, je vais courir. C'est ce que je fais depuis le début de l'année. Et donc j'avais prévu certains jours, le mercredi, je disais, bah tiens, je vais courir tôt le matin. Et puis je reviens. Et puis ensuite, quand elle va au yoga, bah je finis ma séance. En fait, je finis de faire mes kilométrages. Comme ça, le matin, c'est mode fantôme, tout le monde dort. Et puis après, le reste du temps, c'est pendant qu'elle fait son yoga. Et puis il y a des jours, bah elle a pas voulu aller au yoga. Donc ça a un petit peu perturbé les choses. Les jours les plus compliqués à gérer, c'était finalement le moment où finalement ma fille n'allait pas à l'école, où fallait la gérer à la maison, où fallait s'occuper d'elle, fallait travailler en même temps, etc. Et là, c'est juste impossible. Il y a un jour, même j'ai dit, ça peut pas passer dans mon planning, tout simplement parce que j'avais placé le moment de course, le moment où elle était à l'école, et le moment où comme elle va pas à l'école, et que ma femme, ce jour-là, elle avait aussi du travail pour faire des clients, etc. Tout, il y a un moment donné, c'est là où l'articulation devenait compliquée. Mais sinon, mon organisation, c'est comme ça. Abby Appier qui m'a demandé à partir de quel moment j'ai fait des séances, plusieurs sorties par jour. Alors, j'ai repris mon journal d'entraînement. Dans la première semaine, hein, jusqu'à 9-5 km, pas de besoin. En fait, j'ai commencé le mercredi. Donc le mercredi, on était le 12. Et cette fameuse organisation là de dire, je commence le matin, je fais un petit boulange run de 7-6 pour pas partir trop tôt le matin. Donc j'étais parti à 6h. Je fais tranquillement, hop, je vais chercher un peu de pain, je reviens. Et puis ensuite, j'avais prévu... pendant la séance de yoga de ma fille, justement, de courir. Et en fait, j'ai 45 minutes, on va dire, pendant ce temps-là. Enfin, normalement, c'est une heure, mais là, j'ai 45 minutes. Donc, de le faire à ce moment-là. Bon, il se trouve, par exemple, qu'à partir de ce jour-là, elle a pas voulu au yoga, c'était compliqué, des histoires, mettre un pantalon, trouver ce qu'il fallait. Après, ça faisait arriver en retard, etc. Donc, il y a eu plusieurs mercredis comme ça où elle a pas pu aller au yoga. Et donc, par exemple, ce jour-là, on est allé faire de la drésienne. Voilà. Et puis moi je cours à côté, elle fait de la drésienne, moi je cours à côté, et puis après elle a eu son vélo pour son anniversaire, et donc là après on l'a fait en vélo, et en vélo on peut allonger un peu plus les distances, donc on a fait ça, et puis donc ce jour-là en fait je l'ai fait en 3 fois, et c'était pas volontaire, hein, c'est que normalement j'ai prévu de le faire en 2 fois, faire 7 tranquille et puis 5 après pendant keto yoga. Et puis finalement, on a, faire 5 km avec ma fille encore, c'est un peu limite. Elle les fait pas en fait. Si on fait un peu moins de 4 km en vélo, pour l'instant elle les fait bien tranquillement. On peut en faire un peu en marchant, etc. Mais au-dessus, ça commence à, c'est un peu compliqué. Donc j'étais obligé de faire un petit boulangerin de l'après-midi pour aller chercher de la guinguette des rois. Donc ce que j'ai fait, la boulangerie, elle est à 100 mètres, 150 mètres. J'ai fait une boucle. J'avais 1,46 km à faire. J'ai fait une boucle de d'environ 1,2 km. Je suis allé chercher la guinguette des rois et j'ai fini en fait les 100 derniers mètres avec la guinguette des rois à la main pour rentrer à la maison. Par exemple, voilà, le genre d'organisation. Alors en fait, à partir de là, j'ai commencé un petit peu à diviser. Mais par exemple, le jeudi après, le lendemain, j'ai fait 13 km. Et puis le vendredi, ben j'ai redivisé. Alors pour une raison qui était simple, hein, c'est que par exemple, le vendredi matin, j'ai une tradition, c'est d'aller boire mon café au marché où je retrouve Luc avec le Willy Break, un peu ceux qui sont à Cournon, Billon, dans la zone autour de Clermont. Et puis j'aime bien aller boire mon café là-bas. Donc ce qui se passe, c'est que je fais ma grosse partie de ma séance comme ça avant. J'amène ma fille à l'école et puis je pars de l'école et je vais boire mon café. Bon, voilà. Donc il y a des fois, c'est pour ça que je divise. Le samedi, par exemple, j'ai pas divisé, hein, j'ai fait 15 d'un bloc. Voilà. Donc la division en fait après, c'est surtout faite sur la dernière semaine où dans la dernière semaine, j'ai fait une fois ma séance complète de 24 km. Et ensuite, j'ai divisé en petits morceaux. Et puis j'ai eu un petit jeu le 18 où là en fait si vous reprenez mon Strava, vous voyez une séance, une seule séance qui en apparence c'est une séance de 18 km, mais en fait j'ai divisé en 3, en 6, en 6 fois 3 km. C'est un petit jeu, je suis en train de préparer la vidéo qui parlera de ça. C'est le principe était assez bête. Ce que je faisais en fait, c'est qu'à partir de 9h du matin, à 9h, je suis parti courir 3 km. Et puis je suis rentré à la maison, je travaillais un petit peu. Et puis à 10h, je suis reparti courir 3 km et ainsi de suite. Et puis après, quand c'était l'heure de manger, j'ai mangé. Quand c'était l'heure de faire la sieste, j'ai fait la sieste, etc. Et en même temps, j'ai fait des bouts de vidéo. Donc vous sortirez la vidéo prochainement. Elle est un vrai gros retard de montage parce que j'ai ça prend du temps de monter la vidéo, donc je l'ai pas montée. Je finirai de la monter, j'étais pas très satisfait de la forme qu'elle avait, de la globalité, donc il y a des trucs à revoir dessus. Mais ça c'était un petit jeu. Voilà. Au final, j'ai pas couru très vite parce que j'ai fait la vidéo, j'ai filmé, j'ai fait plein de photos, j'ai fait des choses comme ça ce jour-là. 2h17 pour faire 18 km, vous voyez, mais en apparence, mais en fait ça fait presque 6 heures de course hein, cette histoire là découpé en petits morceaux, voilà. Donc ça c'était un petit jeu, un petit bout de jeu comme ça. Donc la dernière semaine j'ai divisé en morceaux, tout simplement parce que ma vitesse de course au fur et à mesure en fait ne me permettait pas, même en partant à 4 heures du matin, de faire 27 km tout simplement, parce que j'en reviens à cette histoire, ne pas me blesser, c'est que j'ai réduit ma vitesse de course. J'ai marché, j'ai dû déniveler, etc. J'ai réduit ma vitesse de course. Et donc ça, forcément, par rapport à l'époque où je faisais mes préparations, ma préparation marathon, je partais courir 27 km. Et 27 km, je peux me dire, je le fais en 2 heures quelque chose, on va dire 2h45, quelque chose comme ça, moins de 3 heures. Où je pouvais faire, je dis ça et encore... c'était plus rapide que ça, parce que ma vitesse marathon, c'est 5,00 km. Donc, normalement, c'est du 12 km heure. Donc, bien sûr, après, il y a l'échauffement, vitesse lente, et puis il y a des sections de 5 km, etc. Il y a des trucs comme ça. Donc, normalement, sur la préparation marathon, ça va plus vite que courir à 10 km heure sur la moyenne de séance. Et là, il y a des jours, j'ai couru entre 8 et 9 km heure. Donc forcément sur la multiplication, ça augmente le volume d'heures en fait, ça augmente le volume d'heures. Je pensais faire du 10 km heure en moyenne, j'ai pas tenu 10 km heure en fait, à cause du dénivelé, à cause de un peu de fatigue, etc. Je l'ai pas fait comme ça. Pour finir là-dessus, Fournier Évrard qui me demande, pas trop compliqué la vie familiale la dernière semaine. Alors si, un petit peu, parce que forcément y a des moments où ça passe pas. Il y a un jour, je le répète, hein, c'est ma fille normalement va à l'école et puis ce jour-là, elle va pas à l'école. C'est galère à la maison, elle veut pas aller à l'école. Alors elle trouve une excuse un petit peu pour pas aller trop à l'école, mais c'est un peu compliqué ce jour-là. Et donc c'est même pas la dernière semaine en fait. C'est le bel jour du semi-marathon. Je me rappelle ce jour du semi-marathon, je l'ai fait en une bloc, les 21.3, j'ai fait 21.3 ce jour-là. Je suis parti le soir à 18h, en fait. J'ai loupé le coucher de ma fille, en fait, ce jour-là. Mais c'est ce jour où je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, j'arriverai pas à le faire, pour une question d'organisation, parce que ma fille n'a pas voulu aller à l'école le matin, parce que ça s'est mal passé, parce que je m'en suis occupé la journée, parce que ma femme travaillait, elle avait des dossiers à finir, etc. Et parce que ce jour-là, je voyais le temps tourner, et au bout d'un moment, ma femme a dit, écoute, là, ça passe pas. Elle me dit, vas-y. Elle me dit, la journée est pas finie. Il me faut combien de temps? Je dis, moins 2h20, quelque chose comme ça. Elle me dit, écoute, t'as encore le temps d'y aller, vas-y. Débrouille-toi pour pas rentrer trop tard. Donc, je suis parti tourner sur ma fameuse boucle de 2 km. Et je dis, je descends sur la boucle, et puis là, je tourne sur ma boucle. Et puis, une fois que j'ai fini, hop, je remonte. Et voyez, même sur ce truc-là qui était officiellement plat, je regarde, j'ai 561 mètres de dénivelé. Voilà, même là, ce jour-là, tout. Donc, il faisait 2 degrés, c'était un vendredi soir, de nuit, etc. J'étais venu là en me disant, tiens, peut-être que je verrai, il y a peut-être des gens qui tournent en même temps, peut-être que ça fera un peu d'animation. Et puis, en fait, à 20h, tout seul, dans le noir, comme ça, il n'y a personne. Mais c'était un moment aussi un peu fondateur, en fait, cette histoire-là aussi, de me dire, puis ça faisait longtemps que je n'ai pas couru un semi, donc là, je cours un semi d'un seul bloc. Malgré la journée que c'est pas du tout passé comme prévu, malgré toutes les difficultés, ça passe. Et en fait, à un moment, je m'étais même dit, dans l'organisation, tu peux partir un jour à 21h quand ta fille est couchée et que tu arrives à courir de 21h à minuit, il faut juste te débrouiller pour qu'entre 21h et minuit, il reste moins de 20 km à faire, en fait. Et l'histoire, en fait, d'une grande partie de l'organisation, c'est que quand je fragmentais en petits morceaux, c'était toujours de me dire, je fais le maximum le matin, je vais pousser le maximum le matin en mode fantôme, pour que dans le reste de la journée, ce qui me reste à faire, ce soit toujours moins de 10 km. Ça, c'était un créneau, c'était vraiment ma vision des choses, me dire, il faut quand même, et sur la dernière semaine, c'est ce que je me suis appliqué à faire, c'est de dire, tu fais le maximum en mode fantôme, partir tôt le matin, et puis pour que en fin de journée, il te reste 5 km à faire, 5-6 km à faire, dire une demi-heure quoi, jamais plus d'une heure, mais faire un truc, ça te prend une demi-heure de partir, faire tes derniers kilomètres, juste pendant que ma femme prépare le repas, pendant ce truc-là, pendant que ma fille regarde un petit dessin animé, que ma femme est à côté, ou joue avec elle, ou des choses comme ça, placer ces petits bouts de trucs là, ou alors juste avant de goûter, pareil, vous voyez, des trucs comme ça, qui me restent juste des bouts de comme ça, mais placer au maximum en fait des gros créneaux, justement par rapport à la vie de famille, par rapport aussi mentalement en fait, de se dire, je dois pas avoir à 21h ou 22h me retrouver à me dire, enfin à 20h, ah mince, il me reste encore 1h30 à faire. Là, ça aurait été trop compliqué. Donc c'est comme ça en fait vraiment que j'ai visualisé, que je me suis organisé pour arriver à faire les choses. Ensuite, j'ai eu des questions sur l'alimentation. Comment as-tu géré ta récupération et adapté ta nutrition? Ça, c'est une question de Ron Adbris. Et Sweetie Dream qui me demande, comment as-tu géré ton appétit, ton alimentation en général? Donc, je l'ai dit, le principe chez moi, c'était, normalement, le matin, je pouvais courir à jeun. Donc là, j'allais courir à jeun, sauf quand les séances sont augmentées, quand je savais que j'allais faire 22, je faisais un petit déjeuner avec du skier le matin, une petite tartine, genre pain de petite épeautre avec le beurre cacahuète, des choses comme ça. Toujours, au bout d'un moment, je partais avec des sticks de miel dans les poches, toujours un petit peu d'eau. À partir du moment où la sortie dépasse 1h30, je prenais une petite flasque d'eau dans la poche. Certains jours, des petites barres Pyrone avec du Kia et tout dedans. Gâteau de nutrition pour les sorties, où je savais qu'il y a des sorties qui étaient plus longues. Donc voilà, pour anticiper un petit peu les choses. Quand je me lève le matin à 5h, je commençais par déjeuner. Et puis ensuite, je travaillais un petit peu, puis je partais courir. Mais bien sûr, je pouvais pas faire le temps de digestion complet, etc. Donc, je jouais un petit peu sur le fait que j'en mangeais pas trop, que je me ravitaillais un petit peu au cours, etc. J'ai fait attention, manger un peu plus de poulet, un peu plus de jambon blanc, faire attention aux protéines végétales, toujours continuer à manger des légumes, faire un goûter, faire une collation dans la matinée. En fait, ce qui s'est passé surtout, c'est que je me suis rendu compte que au bout d'un moment, j'avais plus faim. Pour revenir sur la question de Sweetie Dream, sur l'appétit. Par exemple, quand je faisais un boulangeron le matin, je passais à la boulangerie. Et le truc, c'était d'éviter d'avoir ma carte bleue, d'avoir trop d'argent, parce que sinon, quand je regardais les trucs, les viennoiseries, etc., j'avais envie de tout défoncer, quoi. Donc, il y a un jour ou deux, il y a un jour, je prends un chausson aux pommes, Et un jour, j'ai pris un petit une part de flan, mais j'avais fini ma séance, donc j'ai pris du flan, je me suis dit, tiens, le flan, il y a des protéines, il y a beaucoup d'œufs et tout dedans, c'est pas mauvais pour ça. Je prends jamais de flan aux œufs avant de courir, mais parce que ça me détraque le ventre, mais après, je m'étais dit, tiens, je peux le faire, plus il était bon. Il y a un jour ou deux, il y a un jour, j'ai pris des petits pains comme ça, je passais dans une boulangerie, j'avais la dalle et tout, j'ai pris un truc comme ça. Je me suis rendu compte, surtout dans la dernière semaine, que si par hasard je passais devant une boulangerie, j'ai fait quelques boulanger runs, le pain je défonçais quoi. Enfin franchement, il y a un jour la baguette, ma fille voulait un petit sandwich au jambon, ma femme voulait un petit sandwich, moi je voulais un petit sandwich. La baguette elle a été explosée. Et avant, enfin j'aurais pu manger, si j'avais pas fait gaffe, j'aurais pu manger je sais pas quoi, un pain au chocolat, etc. Et ça j'ai essayé d'éviter. Justement, j'essaie d'éviter. Je préférais me dire, fais attention, tu manges moins. En rentrant, tu manges une banane directement pour essayer de couper un peu, boire plus, faire attention à l'hydratation. Et ça, c'est un des points dont j'ai pas trop parlé, mais vraiment l'hydratation. Moi, le matin, mon premier truc quand je me lève le matin, c'est de boire un verre d'eau ou deux verres d'eau. Ensuite, c'est de boire toute la journée. Un peu de café certains jours, mais j'ai évité un peu le café. Une fois ou deux, je fais des petits cafés de temps en temps. Je bois aussi du Yano, vous savez, c'est avec de l'orge torréfiée, des choses comme ça. Et puis beaucoup d'infusions, des tisanes variées, tisanes du sportif, de chapiplante, pour ceux qui connaissent l'Auvergne, je le dis. Des mélanges que j'ai aussi à la maison, différents mélanges, etc., qui sont plutôt adaptés pour du sport, hein, et pour de l'énergie, pour de la récupération. Et différentes plantes. Et ça, j'en ai, par exemple, il y a des jours, je me faisais une grande théière pour la matinée, comme ça. Et la grande théière, elle fait plus d'un litre. Et donc, ça, c'était ce que je buvais dans la matinée, par exemple, pour être vraiment toujours hydraté. J'ai toujours de l'eau sur mon bureau. Enfin, voilà. Des trucs comme ça. Vraiment faire attention à l'hydratation. Vraiment très important. Le premier truc que je faisais en rentrant à la maison, c'était de boire. Vraiment boire, faire attention à l'hydratation. Et puis j'ai augmenté un petit peu ma consommation en ceinture. La dernière semaine, j'ai doublé la quantité de bouteilles achetées, par exemple. Plutôt que de boire un verre tous les jours, j'en buvais plutôt 2-3 verres dans la journée, pour un petit peu augmenter en fait l'apport en sels minéraux. J'ai aussi, c'est une petite anecdote aussi, j'ai fait attention à saler un petit peu plus mes plats aussi, un petit peu plus pour compenser un petit peu. Moi je sale très très peu ma cuisine, mais là j'en ai rajouté un peu. J'ai aussi ajouté des épices, j'ai mis un peu plus de curcuma dans mes recettes, enfin voilà, tout un tas de petites astuces comme ça, de petits trucs. On a mangé les dalles, vous savez, le dalle c'est riz lentille, et mélange riz lentille, en fait vous avez toutes les protéines végétales qu'il faut, donc ça on en a fait régulièrement. Beaucoup de légumes verts, de choux, des choses comme ça, cuit à la vapeur systématiquement. On a un vitaliseur à la maison, donc ça permet de cuire en plus très très vite. J'ai évité les pastas parties, etc., parce que si vous écoutez Sport Nutrition, vous savez que c'est pas non plus le truc qui est le plus recommandé, mais il y a des jours c'était le cas. Je me suis pas privé de goûter avec ma fille, avec ma femme. C'est juste que voilà, il y a des jours, il y a un matin par exemple, après une séance, je me suis fait un gros smoothie dans lequel j'ai rajouté de la protéine de chanvre en poudre. J'ai mis un peu de miel, j'ai mis un peu de chocolat, un peu de cacahuètes, etc. Si on a regardé la quantité de protéines qu'il y a dedans, je pense qu'elle était assez élevée, mais j'en avais besoin, c'était un ressenti. Et surtout, j'ai fait attention à écouter vraiment mon corps, à me dire, mais j'ai envie de manger ça, quoi. Enfin, j'ai envie de ça, quoi. Grosso modo, c'était un petit peu ça. Voilà. Ensuite, j'ai eu des questions sur le mental. Trailer 76, as-tu douté à un moment? Oui, forcément, il y a un moment donné, j'ai douté. Il y a et puis c'est une question aussi de Johan Run Trail VTT. Est-ce que j'ai douté sur un moment concernant la réussite de ce challenge? Oui, forcément, il y a un moment donné, j'ai douté. Le fameux 21 janvier là, quand je vois que ma journée passe et que ma séance, je peux pas la placer, je doute sur le fait que je vais y arriver. Il y a des matins, je doute sur le fait de me dire, mais tu dois vraiment courir 22, 23, mais comment tu vas passer ça dans ta journée? Ou alors, par exemple, c'était de dire, comment je fais mon fameux week-end? Le 29, je dois faire 29 km le 30-30, en sachant que ma femme, elle part le matin à 8h de la maison et qu'elle rentre le soir à 18h et que moi je m'occupe de ma fille. Il y a un week-end par exemple, je l'avais fait, et c'est, alors là par contre c'était un jour très compliqué. J'étais parti courir un matin, donc j'ai fait mes 7h30, et puis après j'ai mangé chez ma maman. Et j'avais 14 à faire dans l'après-midi. C'est ce jour-là où j'ai décidé que je ferais jamais, il fallait pas que je garde 14 km pour l'après-midi. Ça a été horrible parce qu'après un repas comme ça, on a mangé il y avait, je sais plus quoi, de la quiche, des choses comme ça, courir 14 bornes l'après-midi avec le vent, et c'était vraiment pas sympa en plus le enfin franchement, c'était pénible quoi. C'était vraiment un jour pénible. Ce jour-là, je me suis dit mais franchement, c'est un peu galère. Et puis le lendemain, c'est reparti plus facilement. J'ai fait, il y avait un peu plus de beau temps et tout. À midi, ça avait été le repas était plus simple, enfin voilà, enfin, plus sain surtout. Et donc c'était mieux passé. Donc est-ce que j'ai douté? Oui, franchement, il y a, je le dis, hein, il y a des jours je me suis dit, ah tiens, je vais pas y arriver. Puis il y a des jours à l'inverse où par contre j'étais, et ça me permet d'aller sur la question de Lino qui demande quand est-ce que je me suis dit quel jour c'est bon, je vais y arriver. C'est qu'il y a des jours en fait, je me suis dit je peux pas rater quoi. Le 28 notamment, je savais, et le 28 j'ai beau regarder, qu'est-ce que j'ai fait le 28 le 28 j'ai couru 16 le matin, 12,5 l'après-midi, mais le 28 je m'étais dit, je sais que le 29, le samedi 29 il va passer, parce que je m'étais préparé mentalement à dire le difficile c'est le 30, mais le 29 tu te réveilles à 4h du matin, tu vas courir à 4h du matin et tu vas passer le maximum de kilomètres que tu peux avant que ta femme parte en formation. C'est ce que je me suis dit, c'était. Et je me suis dit, ça, tu vas le faire. Mais après le 30, je me suis dit, bon, si le 29 passe, le 30, tu recommences et tu sais que c'est le jour le plus dur, mais tu sais que tu vas y aller au combat, quoi, j'ai envie de dire. Et moi, il faut pas que j'ai des thèmes guerriers, mais ce jour-là, je me suis dit, j'ai mis sur Instagram, j'ai dit, là, c'est le moment de se mettre en tigre. De toute façon, c'est le hamster sans son tigre. Vraiment, dans le truc, c'est Eye of the Tiger, quoi. C'est un petit peu le clin d'œil aussi au Nouvel An chinois, mais Eye of the Tiger, c'est vraiment, vous voyez, les images que j'avais en tête un petit peu en disant, tiens, c'est comme Rocky, quoi. C'est le moment d'aller monter les marches, d'aller courir et tout. Bon, vous savez, dans le film, c'est en plus, c'est totalement pipeau, hein. L'histoire, le kilométrage qu'il fait, ils ont refait le tracé, ça correspond à rien du tout. Mais, vous voyez, cette image-là de tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Il y a même des moments, dans ma tête, j'étais presque comme un boxeur, et dans le truc, tac, 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 faut t'avancer, tac, 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 etc. Mais le 28, autant il y a des jours, j'ai douté, autant le 21, je me suis dit, ça passera pas. Autant il y a des jours, je me dis, il fallait que je reparte le soir à 6 heures, faire quelques kilomètres de plus, etc. Je me suis dit, ça va pas passer. Le 24, vous voyez, je fais 24 dans l'après-midi, mais c'est pareil, ma fille va pas à l'école ce jour-là, ou ça passe pas, etc. Et puis ma femme, elle me dit, vas-y pendant l'après-midi, mais elle me dit, tu te dépêches, j'ai 24 bornes à faire, 24 kilomètres, il me faut 2h40, parce que à un moment donné, il y a un peu dénivelé, et puis ça avance pas comme je veux, etc. Mais il faisait beau, c'était bien, tout, enfin, voilà. Là, c'était dur, je doute un peu sur le fait que je me dire ça passe pas, mais je m'accroche à ce truc-là, quoi. Mais je pense que le jour le plus compliqué, c'était le jour du semi, ouais, le 21. Mais fondateur, vraiment fondateur, parce que je pars à 6h du soir. À 6h du soir, je me dis, là, maintenant, tu ne rentres qu'après avoir fait tes 21 kilomètres. Tu ne rentres qu'à ce moment-là. Et 21 kilomètres, bien sûr, si on le fait en course, je vais le faire en 1h40 et quelques bananes. Là, il me faut 2h19, en fait, pour les faire, parce qu'il faut que je m'échauffe, il faut que je descende dans la zone, et puis après, il faut que je remonte, je tourne autour de cette boucle, et là, et tout, enfin, il y a tout ce truc-là. Mais je crois que c'est le jour où je me suis peut-être le moins arrêté, ce jour-là. Où j'ai dit, ce jour-là, il faut que ça passe. Et c'est ce moment-là où ça commençait un petit peu à me dire, bon, ça peut passer. Mais vraiment, le jour où je me dis, ça va passer, c'est le 28. Où là, vraiment, le 28. Pourtant, je fais quoi? 16 le matin, je vous dis, je pars le matin, c'est glisse, ça avance pas, mais il faisait beau. C'était magnifique, les couleurs. Mais franchement, je regarde ma moyenne, je fais les 16 kilomètres, mais 2 heures pour faire 16 bornes. En ayant beaucoup glissé, c'était fatigant parce que ça glissait dans tous les sens, etc. Et puis, l'après-midi, je vais faire 12,5. Et là, 12,5, quelque chose comme ça. Et là, franchement, ça avance bien, c'est cool et tout. Et quand j'en arrive, je me dis, là, je sais que demain, de toute façon, le matin, tu vas te lever. Dimanche, le matin, s'il faut te lever, tu vas te lever. Et tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas y aller. Et le 31, ça sera que du bonheur. Donc, le 28, je me suis dit, là, je sais dans ma tête que c'est gagné. Et pourtant, à ce moment-là, il reste 90 km à faire. J'avais aussi un truc en tête. C'est que ce jour-là, j'ai calculé que j'avais 18 km de marge. 18 km de marge, c'était mon joker. Et j'ai dit aussi, tu n'utilises pas ce joker. Tu ne l'utiliseras pas du tout. Tu n'as pas le droit d'utiliser ce joker. Enfin, je vous dis 18 ou 13 ou quelque chose comme ça, parce que je vous dis au final, ça fait 509 au kilomètre. Je suis en train de calculer. J'avais plus de marche que ça, en fait. Enfin, non, ou c'est non, j'ai 13 kilomètres, pardon. J'ai 13. En fait, je me suis dit, par exemple, le dernier jour, voilà, c'est pour ça que je mélange, j'avais 13 kilomètres de marge. Le dernier jour, je m'étais dit, si vraiment t'as un problème, tu sais que tu peux t'arrêter à 18, le 31, tu peux t'arrêter à 18, et t'auras quand même tes 496. T'es sûr de les avoir si tu fais 18. Mais j'avais dit, le 31, je ferai 31 d'un bloc. Donc, je m'étais dit, le dimanche, si jamais j'arrive à faire 18 le matin, au petit matin, même si la journée se passe mal, même si ça va pas, même si je peux pas courir, même si ma fille veut pas aller faire du vélo dans la matinée parce qu'on a fait 3,7 km de vélo dans la matinée, même si le soir j'arrive pas à faire les 5 km ou quoi que ce soit, si j'ai fait 18 km le dimanche matin, si, enfin ou 13 ou un truc comme ça, si j'ai fait 13 km, 14 km, j'ai au minimum. Enfin, j'ai mon truc. J'étais là-dedans, en fait. J'étais mon truc. Il me faut que j'ai ce 13 km. Alors, attendez, je suis en train de mélanger dans les trucs. Donc, ça veut dire que, il fallait que je passe le cap des 18, 19 km à chaque fois. Et je me disais, si tu passes le cap des 20, tu sais que de toute façon, t'auras encore du bonus. Mais je veux pas l'utiliser. Voilà. C'était ça. Ma logique, c'était ça. Dans les derniers jours. Donc, à partir du jour 28, et que je sais que j'ai calculé cette histoire d'un petit peu de petite marge, je me dis, si l'objectif c'est d'atteindre les 496, tu sais que même s'il y a un problème, tu as cette petite marge de 13 km, et même, je l'augmente, en fait. C'est-à-dire que même le samedi matin, le samedi, même en faisant un petit peu plus, j'augmente un petit peu cette marge, le dimanche j'augmente un petit peu, pour avoir un petit peu cette marge-là, et me dire, tu auras cette marge-là de 13-14 km, pour au cas où, s'il y a un problème. Si même tu peux faire que 18, 19 ou 20, tu passeras la barrière des 496. Bon, dans les faits, j'en ai pas eu besoin, je l'ai pas utilisé. J'ai fait 29 le samedi, 30 le dimanche, 31, gagné. Voilà, c'est comme ça. Mais c'était comme ça, je m'étais préparé. D'autres questions. Quel jour, chaque label, quel jour était le plus dur pour toi et pourquoi? Donc je leur dis, hein, c'est vraiment, je pense, le 21. Jour fondateur, mais jour très difficile. Je le dis, en fait, c'est que... À chaque fois que je voyais que ma fille voulait pas aller à l'école, voulait pas aller au yoga ou quoi que ce soit, je me disais, waouh. Et maintenant, comment tu fais ça? Surtout, par exemple, le vendredi matin, je participais à un mastermind à 11h, je veux pas le rater, j'ai des rendez-vous absolument. Il y a des jours, ma femme a des rendez-vous, on avait des rendez-vous médicaux. Par exemple, il y a un jour, il y avait la visite des 4 ans de ma fille. Il y avait aussi ma fille, le 14 janvier, elle a eu ses 4 ans, donc il y avait comment, je peux regarder le 14 janvier, qu'est-ce que j'ai fait le 14 janvier, le vendredi 14, je fais 9, et puis je me dis, il faut absolument que je fasse dans la matinée, pour arriver à faire 14 km. Alors, ça va, c'est que 14, je m'étais dit, je pars le matin, 5h48, j'en fais 9, et puis ensuite, je vais faire mon coffee run, et pour que l'après-midi, quand on la récupère à l'école, on passe du temps avec elle à l'école, on aille voir les grands-parents, etc., là-dessus, qu'il n'y ait pas de soucis, voilà, qu'il n'y ait pas de soucis. On faisait l'anniversaire de ma fille le 15 avec d'autres grands-parents, je suis parti, fallait que j'arrive à me dire à quel moment tu vas pouvoir faire courir ta séance, etc., enfin, vous voyez, tous ces trucs-là, comme ça. Bon, mais... L'un dans l'autre, en fait, la difficulté, vraiment la difficulté des choses, c'était ça, c'était de dire, le jour le plus dur, c'est le moment où ma fille, là, on sent que ce jour-là, ça va pas, elle est un peu malade, ou alors elle veut pas aller à l'école, ça va être compliqué, elle fait tout pour arriver en retard à l'école, ça met un peu de stress. Il y a un jour, je sais que je suis allé courir, j'étais stressé, j'étais pas bien. Et j'étais pas bien, quoi. Je courais pas à bonne vitesse, j'avais besoin de me défouler, je courais trop vite, etc. Je me dis, waouh, calme-toi, quoi, calme-toi. Vraiment, là, ça va pas. Donc, je souffle un bon coup, etc. Mais vraiment, je le dis, le jour le plus dur, je pense, c'était le 21. Marotami, as-tu eu des moments de doute, d'envie de tout lâcher? Alors, envie de tout lâcher, il y a deux jours, donc il y a eu le 21, puis je sais plus quel autre jour aussi, où je me suis dit... C'est pas que j'ai pas envie de lâcher. En fait, j'ai pas envie de lâcher, mais je pense que ça ne va pas passer pour des questions de temps. Et en même temps, ma tête est en train d'imaginer le truc, en train de dire comment tu vas annoncer ça, comment tu vas parler de ça, qu'est-ce que tu vas dire, etc. Comment tu pourrais le dire. Et je me voyais déjà en train de faire un message sur Instagram et tout en disant voilà, là j'arrête. Et puis en même temps, je me disais mais tu peux pas arrêter. Mais non, regarde. T'as besoin, t'as 21 km à faire, par exemple, pour revenir de ça. Si tu mets 2h30 pour les faire, il faut que tu partes de la maison maximum 21h. 21h plus 2h30, ça fait 23h30. T'as le temps de les faire. Même si tu les fais en marchant, s'il te faut 3h pour faire ta séance et que tu la fais en marchant en partie, si c'est, tu pars à 21h, ça passe encore. Ma fille est dormie et en mode fantôme. En mode fantôme, c'est-à-dire ma fille dort. Ma femme est à la maison et on a fait la vaisselle, etc. On a mangé, tout ça est fait. Bon bah, je regarderai pas, je lirai pas, je me coucherai un peu tard, mais j'ai le temps de le faire. Donc je me disais, je peux pas lâcher en fait. C'est ce truc-là, c'était là, dire, tant que t'as le temps de les faire, tu ne lâcheras pas. Et il y a même des jours, je m'étais dit, si je dois faire ma séance de 21h à minuit, je la ferai de 21h à minuit. J'en ai pas eu besoin, mais je dis, le 21, j'ai failli pas passer. Parce que je rentre à la maison à plus de 20h, que ma fille dort, que j'ai raté son coucher, et que... Mais en même temps, avant, c'était le moment où j'allais à l'entraînement. Avant, j'avais entraînement 18h30 à 20h en club, et donc là, je suis allé courir de 18h à 21h20. 20h20. 18h, 20h20. Donc finalement, dans les créneaux où normalement, j'aurais dû être en club si j'étais resté au club cette année. Je leur dis, hein, je suis pas au club cette année, par rapport au rythme virus, etc., en disant on sait pas si le club ça va, comment vont se faire les entraînements, le nombre de groupes, c'était un peu compliqué. Cette année j'ai préféré je vais faire ça, et puis en même temps, en plus, ça me permet de, il y avait deux soirs, le mercredi et le vendredi, il y avait entraînement club 18h30 20h, et deux soirs en fait, ça, maintenant ça permet de faire, d'être là à la maison, de faire coucher ma fille, de faire les câlins, etc., et je trouve que c'est aussi bien, je me débrouille pour aller courir à un autre moment. Donc finalement, c'est pas si mal, mais je me suis dit, bon, t'as toujours ce créneau-là. Mais tant que j'avais ce créneau-là, je me disais, tu lâches pas. Et en fait, est-ce que j'ai eu envie de tout lâcher? Non, il y a des moments où je me suis dit, ça, c'est galère et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous dans cette galère? Et vous savez, j'ai mis sur Instagram un jour, je remettrai le lien, mais c'est toujours un peu la traversée des marécages, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit, projet, c'est génial et tout, on part plein pot. Et puis, au fur et à mesure que la difficulté augmente, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et puis, il y a une grande partie, en fait, c'est de se dire, putain, c'est la merde quand même, c'est la merde, mais je m'accroche, c'est la merde, mais je m'accroche. Et puis au bout d'un moment, on finit par sortir des marécages et te dire on va y arriver. Ma sortie des marécages, c'est autour du 28, et ensuite quand on dit on va y arriver, on dit putain c'est un truc génial quoi, ce que je vais faire, je pensais pas pouvoir le faire, je vais y arriver, putain super cool et tout. Et là c'est 29, 30 et 31. Et donc j'ai pas envie de lâcher en fait, j'avais pas envie de rester dans ce marais des englué et tout. C'est juste que il y a des moments où oui, je doutais, mais par contre j'avais pas envie de lâcher. Et tant que je voyais que j'avais le créneau de temps qui me restait, me dire il te reste 2 heures, il te faut 2 heures, t'as 2 heures, tu peux, c'est encore bon, ça passe, c'est encore bon, ça va passer, ça peut le faire. Voilà, c'était comme ça, toute une partie a été comme ça. Marine qui me demande, quel ressenti as-tu durant tout ton challenge, physiquement, mentalement? Bon, j'ai dit un petit peu, le ressenti, c'est que, surtout, c'est que physiquement, ça va, mentalement, c'était par moments, c'était, oh, je me trouve un peu lent aujourd'hui, oh là, c'est un peu long, je pensais être parti il y a un jour, pour anecdote, c'était vers la fin, je pars et je dis, je regarde pas ma montre, parce que je me dis, si je regarde ma montre, à la vitesse à laquelle je cours, je pense que je vais être déçu. Donc je regarde pas ma montre. Du coureur et tout, je regarde pas ma montre. Et à un moment donné, je me dis, bon, maintenant, je vais peut-être regarder ma montre pour savoir où j'en suis quand même. Je regardais l'heure un petit peu dans les rues, tu sais, sur les pharmacies, il y avait l'heure qui était affichée, des choses comme ça. Puis je regarde, je dis, bon, je vais regarder. Je dis, mais prépare-toi, il y a deux choses. Soit t'es déçu parce que t'es pas allé très vite, soit t'as une très bonne surprise et finalement tu vas plus vite que ce que tu penses. Mais je me dis, bon, peut-être potentiellement t'as fait 11 bornes. Et donc là je regarde ma montre et j'avais fait 11,15. Je me dis, bon, finalement t'as fait un peu plus que ce que tu pensais, c'est pas si mal que ça. Mais à partir de ce moment-là, j'ai trouvé que c'était long, parce que en fait ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que je regardais le temps, ma vitesse, je trouvais que je courais pas assez vite. Et j'en reparlerai un petit peu parce que c'est vraiment l'aspect mental. C'est le plus compliqué pour moi, c'était de gérer en fait mon ego. Et ça fait partie des questions que je vais pouvoir aborder ensuite sur le bilan, parce que je vais passer à des questions qui m'ont été posées sur le bilan, et notamment sur le bilan mental de tout ça. Donc il y a une question, par exemple, qu'est-ce qui était le plus compliqué pour moi pendant ce challenge? Je le dis, c'est l'ego, et je vais
ça me permet d'attaquer la partie suivante sur le bilan que je fais globalement de ce projet-là. Donc, dans le bilan, d'abord, avant de partir de l'ego, on va parler de des questions qui ont été posées, par exemple, par Benjamin. Est-ce que tu as tiré des bénéfices physiques? Exemple, augmentation de la VO2. D'après ma montre, très légère augmentation de la VO2 sur le mois. Un point de VO2. Mais ma VO2 était, n'est pas très élevée. Hein, de toute façon, j'en ai pas... sincèrement, vous voyez, mon ego va me dire... J'ai pas un ego surdimensionné au point de dire oh, j'ai un super VO2, etc. Non, c'est pas vrai. J'ai toujours dit que j'étais un coureur lent. Je me suis rendu compte qu'à l'époque où je disais que j'étais un coureur lent, je n'étais pas un coureur si lent que ça. J'avais une VO... À l'époque, j'avais une VMA. Donc, vitesse... de base autour de 15-8 dans ces zones-là, presque 16. Et là, mon dernier test de VMA après les blessures, après la prise de poids liée à l'opération parce que j'avais mal mangé, etc., je vous ai raconté tout ça, et la sciatique, les douleurs, j'étais plutôt à 13. Donc j'ai perdu 3 km/h de VMA, ce qui est énorme. Et donc je me rends compte que l'époque où je me trouvais là, en fait, j'étais rapide. Et je vais vous donner un truc, c'est que ma vitesse de marathon du marathon de Paris, donc c'était 5-0-0. Même à l'époque, je pensais pouvoir courir en 4-45 au kilomètre, puisque j'étais capable de faire le semi en 4-45, etc. Je pensais pouvoir partir sur du 4-45, entre 4-45 et 5. Et ben, c'est ma vitesse de seuil maintenant. Donc c'est la vitesse de travail de VMA, en fait. C'est-à-dire que on peut pas faire un marathon en seuil, en vitesse de seuil, c'est pas possible. Parce que la vitesse de seuil, c'est plutôt là où on fait des sorties type des 2000 mètres, 1500 mètres, des 2000 mètres, des choses comme ça, des 3000 pour travailler la VMA. Et ben c'est ma vitesse, c'est ma vitesse à laquelle je courais le marathon, j'ai couru mon marathon de Paris. Donc ça montre aussi le recul que j'ai pris, en fait. Donc ma VO2 n'est pas terrible, elle avait beaucoup baissé l'an dernier. Après je regarde que ma montre, hein. Franchement je fais pas des mesures scientifiques ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, elle pouvait pas augmenter. Parce que, en fait, je n'ai pas fait de travail de fractionné, j'ai pas fait de travail de vitesse. Mon truc à moi, c'était de finir et d'essayer d'avoir une vitesse à peu près constante, etc. Je disais au départ, j'aimerais bien courir à 10 km/h, je me suis rendu compte que des moments j'étais plutôt à 9 et puis des moments j'étais plutôt à 8. Mais que globalement, le but du jeu, c'était d'arriver au bout. Et que pour ne pas se blesser, pour pas se surfatiguer, il fallait pas faire de vitesse. Il y a un jour ou deux, je me suis senti des ailes, j'ai augmenté. Mais très rarement, et en fait, donc dans ce cas-là, la VO2 ne peut pas augmenter. Par contre, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec la base physique que j'ai, mais bon, j'anticipe un petit peu sur la suite, j'ai de quoi travailler ma vitesse. Ça, c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Trail 76 qui me dit, qu'as-tu appris de ce défi? Eh ben, j'ai appris de ce défi que déjà, c'est possible de le faire. Ça me paraissait juste improbable à faire. Physiquement et tout, puis vous voyez, mes barrières mentales me disaient oui, mais t'as jamais couru autant, ça va être long, ça va être difficile à placer, comment tu vas faire, etc. Et ben que oui, c'est possible à faire, que c'est des questions d'organisation, des questions de repos, que tout ce que je viens de vous raconter, finalement, oui, c'est possible, oui, c'est possible de le faire. La preuve, je l'ai fait. Donc qu'est-ce que j'ai appris? Que je suis capable de le faire, que je suis capable d'avoir ce volume d'entraînement, que je suis capable de le faire. Ça me rassure beaucoup d'ailleurs sur l'histoire de l'objectif Ironman de l'an prochain, c'est que je suis capable d'avoir ce temps, de prendre ce temps, d'avoir des heures comme ça dans ma semaine pour arriver à faire ça, de m'organiser de cette manière-là. Donc oui, je suis, je l'ai appris aussi, ça m'a permis de faire un bon test, de voir comment je peux faire. Ça m'a appris aussi qu'il y a des moments quand il y a beaucoup d'énergie, ben j'ai faim, comment je dois gérer mon alimentation, comment je dois gérer mon repos, que je dois vraiment faire attention encore plus à mon sommeil. Bon, ça je le savais, mais là j'ai vraiment vraiment intégré ça. Et donc vraiment, c'était le globalement, c'est ça, quoi. C'est qu'est-ce que j'ai appris? C'est vraiment, je tire le bilan de ça, c'est de dire, je sais que je suis capable de le faire. Je sais que maintenant, je suis capable de faire des choses que je ne pensais pas faire, en volume d'entraînement, etc. Ça ne veut pas dire que je vous préconise de faire ce volume d'entraînement-là. Ça ne veut pas dire que je me préconise moi-même de faire ce volume d'entraînement-là. Non. Mais en tout cas, que sur certains défis que je pourrais avoir, si un jour j'étais tenté, par exemple, de préparer un type ultra, faire des 24 heures, etc., je suis capable d'avoir le volume, l'entraînement, la discipline pour être capable de le faire. Voilà. JC qui me demande ton meilleur souvenir et ton pire moment. Eh ben, mon meilleur souvenir, franchement, je crois que il y a un matin, je sais plus quel matin c'est je parcourir, c'est à la fois le meilleur souvenir et le pire moment. C'est un mercredi matin, ça c'est sûr, et c'est le je suis en train de chercher, 19 janvier. Je pars le matin à 5h55 en me disant, tu vas faire le maximum. Bon, ma fille devait aller au yoga, etc. Et ce jour-là, en fait, je pars en me disant, tu vas faire le maximum de kilomètres. Et je me retrouve, mais je pars faire une boucle, en fait, dans un, et puis je pars sur les chemins. J'avais envie d'avoir, faire un peu de chemin, etc. Je me suis dit, je vais finir par, si je me débrouille bien, je finirai par lever de soleil, etc. Et donc, ce jour-là, je pars et je me retrouve. Donc, je prends dans une route, et puis une autre route, et puis une autre route avec la frontale. Et puis, je me dis, tiens, tu fais ça. Et puis, si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu vas arriver à éviter de passer par sur la grosse montagne. Tu vas faire tout le tour. Et à un moment donné, je trouve que ça pue. Ça sentait mauvais. C'était ça. Je me dis, mais je suis où? Et en fait, c'est que le chemin que j'avais pris, me suis retrouvé vers les décharges et l'incinérateur, qui est alors de la maison, il y a quand même plusieurs kilomètres, mais en courant, bah forcément, en courant, jour-là j'ai fait 16, je me suis retrouvé là et je me suis dit bon maintenant, comment tu reviens? Et je me suis dit mais pour revenir, il y a cette grosse tas de décharges là devant moi, il faut que j'en fasse le tour, il y a l'incinérateur, devant l'incinérateur je connais les routes et je me dis waouh, il y a une grande route et à un moment donné tu vas être obligé de longer la route. Et il y a de la circulation, c'était le matin, on se retrouvait vers 7h, il y a des camions qui passent, etc. Des camions qui puaient avec les poubelles, etc. Et là, vraiment, je me suis dit, mais pff, merde, quoi. Enfin, vraiment, vraiment merde, quoi. Là, vraiment, je peux te dire que j'étais, je suis dit là, c'était... pour éviter la route, je me suis mis à courir dans les chemins, j'ai dû traverser un fossé à la frontale, puis ensuite j'ai récupéré un autre bout de chemin et enfin j'ai retrouvé du chemin. Et à ce moment-là, par contre, c'est un très bon souvenir parce que tout d'un coup, le soleil commence à se lever enfin et j'ai les lumières du soleil, j'ai la musique. Et là, je me dis « Waouh, franchement, c'est beau quand même !» Donc, c'est un très mauvais souvenir, mais qui est devenu un bon souvenir par les images de fin. Même si vous verrez pas de photos parce que les photos sont catastrophiques et puis ma fille se réveillait un peu tôt et là où je pensais faire mes 19 km d'un bloc et ben en fait j'en fais que 16 et après ben à la fin de la journée j'ai dû aller finir et comme ma fille avait été particulièrement compliquée ce jour-là à gérer, c'était un très mauvais souvenir aussi parce que c'est même sur Strava d'ailleurs j'ai dit que j'avais pas le moral parce que franchement avec ma fille on s'était engueulé parce qu'elle avait pas voulu écouter parce que enfin bref pour plein de raisons et donc ce jour-là ce 19 je dis pas que je lâche ou quoi que ce soit, c'est un très très c'est très compliqué le passage cette nuit et tout par où je passe etc, c'est un très mauvais souvenir. J'ai le bon souvenir de la luminosité du matin, là où j'ai un très bon souvenir de la luminosité du matin aussi, un très très bon souvenir. Par exemple, c'est je suis en train de chercher le 28 janvier, le fameux jour où c'est une vraie patinoire, où on tient pas debout. Le matin, c'était magnifique là où je suis. Quand j'ai fini par arriver là où je voulais arriver pour courir, c'était tellement beau, mais vraiment tellement beau, les couleurs et tout. Il faisait très froid, mais c'était tellement beau. Enfin, vraiment, il y a des moments comme ça. Et puis après, j'ai des bons souvenirs, mais je peux pas donner des jours. Je vais vous donner un petit truc, c'est parce qu'on peut en parler un peu aussi, c'est que j'ai me suis mis à écouter, changer un petit peu mes habitudes musicales. J'ai regardé le documentaire d'Orelsan sur Orelsan il y a pas longtemps, et donc je me suis dit il faut quand même que j'écoute Orelsan. Et donc je me suis sur Spotify, je me suis mis à écouter Orelsan. Et il y a une chanson, il s'appelle Ils sont fous avec Gringe. Et c'est quand je mets ça, en fait, je me prends un peu pour le, à chanter, à courir dans les trucs. Et il y a des moments, c'est ce moment où j'accélère. Et puis, il y a certaines chansons de Youssoupha aussi. Il y a une ou deux chansons de Youssoupha. Il y a une, comment il s'appelle? Chaka Ponk, Red Hot Chili Peppers. Deux, trois trucs comme ça. Et quand je mettais ça, à la fin, mais même quand j'avais fait 20 bornes, je me sentais avoir des ailes, quoi. Je me sentais avoir des ailes, en fait. Et ça, c'est les bons moments, en fait. C'est de se dire, putain, t'as fait 20 bornes. T'as fait déjà, je vous dis ça par exemple, la semaine du 24 au 30, donc dans la semaine je fais 192, et à un moment donné, tu dis, waouh, ça roule et tout, t'as fait 190 bornes, mais ça avance encore, et c'est cool quoi, vraiment c'est cool, voilà, c'était cool, je le dis d'ailleurs, la semaine, le 30 janvier, hein, le fameux 30, je découpe en trois morceaux, donc 22, 3, 7 avec ma fille en vélo, et puis après le soir, j'en fais 5 quand ma femme est rentrée de sa formation. Et là, je les ai fait, les 5 km, je l'ai fait en 33 minutes. Donc, je suis pas dans mes 10 km heure. Mais pour voir que j'ai fait 192 bornes dans la semaine et qu'on est déjà à 400 bornes au total, à 460 bornes, j'ai envie de dire, même, je me suis dit, waouh, putain, mais t'as encore de l'énergie, ça avance, cette histoire, et la bestiole, elle avance pas si mal que ça. Et donc, quand je mets la musique et tout, je me dis, waouh, super, quoi, cool, top, super, génial, c'est top, voilà. Et ça, c'est les bons moments. Ça, c'est vraiment les super bons moments. Une question que j'ai eue de Estelle Nice qui me demande quelle performance de fou. Merci Estelle. Elle me dit ça fait rêver. Quel impact sur mon poids? Ah, alors un truc très paradoxal. Je vous le dis, au total j'ai perdu 4 kilos par rapport au moment où j'étais le plus gras du mois. Au tout début, je me suis mis à prendre du poids jusqu'au 17 janvier à peu près. Je prends du poids et là je comprends pas. Et je me dis, c'est bizarre quand même, tu cours, et le 17 janvier quand même, à ce moment-là, si on reprend le 17, je suis en train de garder le 17, c'est un lundi, vous voyez, j'ai déjà fait 43, 94, plus 142, j'avais fait 250. Et je me dis, mais comment ça se fait que tu continues, que tu grossis, t'as grossi. Alors je me suis dit qu'en fait, c'était... Sur les fêtes de Noël, franchement, le chocolat, etc., on a bien abusé. Et sur le début de janvier, j'ai fini le chocolat, les papillotes, et trucs comme ça. Bon, attendez, il y a une petite coupure parce que ma fille a débarqué. Donc là, je reprends, et un petit peu plus tard. On sera en retard aujourd'hui sur la diffusion de l'épisode. Ma fille s'est réveillée, donc on a fait un petit câlin, etc. Et donc, je redisais, je faisais pas trop attention à mon alimentation, je faisais pas trop attention à ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pris, j'ai un peu grossi. Alors que je pensais perdre du poids, ce qui m'avait vraiment très étonné. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, là, il faut quand même que tu te surveilles un petit peu. Et donc après, c'est revenu. Et donc, je suis revenu à un poids qui était qui est plus conforme à ce que j'espérais. Et ce qui est vraiment intéressant, donc j'ai perdu au total 4 kilos et 4 kilos de gras. Et alors, vraiment, vraiment, mon ventre commence à se dessiner un peu plus. Alors, on peut pas dire que j'ai les abdos, il faudrait que je fasse plus de travail d'abdos pour les rendre plus visibles, etc. Par contre, ça commence à creuser et mon objectif abdos, ben, est en train de se dessiner. C'est marrant, c'est amusant. Maintenant, il faut vraiment que je fasse des abdos et ce qui m'amènera peut-être, d'ailleurs, mes défis suivants, c'est justement, en tout cas sur ce mois de février, je vous en reparlerai, de travailler plus sur la partie un peu plus musculaire, hein, vraiment un peu plus musculaire, musculation. Et je vais beaucoup moins courir au mois de février, ça c'est clair, mais vraiment renforcer et puis essayer de garder ces alimentations-là. Donc j'ai vraiment à partir, on va dire dans la deuxième partie du défi, on va dire autour du 17, hein, c'est un peu la zone de bascule, où je me suis dit là, il y a une vraie question, c'est de dire... Parce que ça, c'est un truc qu'on avait abordé avec Denis Boucher, de dire qu'en fait, quand on court beaucoup, on finit par s'épuiser et on finit par manger mal, etc. Et on peut courir et grossir. Et en fait, on avait fait un épisode sur le sujet. Donc, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode et sur mon site. Et donc, ça, c'est à un moment donné, je me suis dit, mais comment ça se fait que malgré le fait que tu aies couru autant jusqu'à maintenant, tu prennes du poids? Et c'est que là, je me suis dit, je mange pas assez bien, pas assez comme il faut, je donne pas ce qu'il faut à mon corps. Et à ce moment-là, en fait, c'est là que j'ai rajouté plus de protéines. J'ai repris plus de jambon blanc le matin, j'ai fait attention à manger un peu plus de viande à midi, plus de protéines végétales. C'est là aussi que j'ai rajouté quelques smoothies dans lesquels je mettais des protéines de chanvre, des choses comme ça. Enfin voilà, tout un tas de trucs comme ça sur lesquels j'ai fait plus attention. Et c'est là que la bascule aussi. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à tenir sur la distance, vraiment sur la distance. Et puis sur ce bilan, j'ai une dernière question qui m'était posée par Laurie, qui me dit... Quel bilan fais-tu de ton mental pendant ce défi? Est-ce qu'il y a des bas et comment les as-tu gérés et dépassés? Alors Laurie, merci pour la question. Alors d'ailleurs, en plus, je remercie Laurie d'autant plus qu'elle fait partie de ceux qui soutiennent le podcast par le biais de Patreon. Je sais là, c'est le moment de parler du fameux ego. Hein. Le problème n'était pas le mental. En fait, ça fait des années que je dis que mon problème, c'est le mental. C'est le mental, le mental, le mental. Que j'ai un problème, que je suis faible sur le plan mental, que je suis friable, etc. En fait, il faut savoir ce qu'on regarde dans le mental. Les éléments de la motivation, par exemple, d'où ça venait, d'où ça vient, etc. Ça, c'est ce que j'ai vu en préparation mentale. Et il y a beaucoup de choses dans le préparation mentale qui sont sur les habitudes, les routines. Et ça, je le faisais, sur la discipline aussi. Ça, je le fais. J'ai aucun problème là-dessus. Quand je suis motivé, je peux mettre en place des routines, des habitudes, une certaine discipline. La preuve, j'étais motivé par ce challenge et j'ai mis en place ce qu'il fallait. Quand j'étais motivé par la préparation marathon, j'ai mis en place ce qu'il fallait. Quand je n'avais plus d'objectifs, je suis démotivé ou pas motivé parce que je n'ai pas d'objectif. Et donc, je ne mets pas en place ce qu'il faut. Vous voyez, c'est un peu cette logique-là. Si vous sentez que vous travaillez un petit peu de cette manière-là, il faut vraiment vous poser la question, vous dire, je sais que quand je prépare une course, je suis très motivé, je vais mettre en place des éléments pour le faire. On peut pas le faire sur toute l'année, on peut le faire que sur une partie de l'année, mais sur 2-3 mois, on va le faire, on va être vraiment sérieux. Ensuite, derrière, il y a une période de récupération, où on va être plus lâche, et puis, il faut pas que cette période de récupération elle dure trop longtemps, parce que sinon, finalement, on tombe dans des mauvaises habitudes, et c'est l'inverse de ce qu'on veut. Donc, c'est l'importance de se mettre des objectifs régulièrement. Ça ne veut pas dire se mettre des gros objectifs, mais ça veut dire se mettre un objectif. Et un objectif, c'est quoi? Ça doit être un objectif qui vous permette de progresser, qui vous permette, en fait, de vous dire, c'est suffisamment dur pour que ça m'oblige à faire quelque chose, mais c'est, dans la mesure, c'est potentiellement, je peux le réussir. Donc là, vraiment, vous voyez, ce défi, ce 487 challenge, c'était, il me paraît très difficile, mais il y a quand même une petite chance que je puisse le réussir, ne serait-ce que parce que c'était petit pas par petit pas, c'est découpé en petits morceaux. Attention, hein, c'est une progression exponentielle, la distance. C'est-à-dire que la première semaine, on fait 49, la dernière semaine, on en fait 192. Donc c'est quand même exponentiel. C'est le fait de rajouter 1 km par jour, c'est pas un petit pas de plus, c'est juste un truc qui augmente la charge, qui la multiplie en fait, hein, vraiment à chaque fois, de jour en jour. Et donc ce surplan-là, en fait, sur l'objectif, il était atteignable. Est-ce qu'il me permettait de progresser? Oui. Je vous l'ai dit, sur mes habitudes, mes routines, sur ce que j'ai appris, etc., j'ai progressé. Donc, en lui-même, c'était un objectif qui était intéressant, qui était pour moi vraiment pertinent et intéressant. Et donc, à ce moment-là, en fait, ça m'a permis de me questionner sur plein de choses, sur me dire, mais finalement, si ces éléments-là, tu les as, c'est quoi le problème? Il est où le problème? Et c'est là que est intervenue ma question sur mon ego. En fait, l'ego, c'est complètement, c'est difficile à définir, mais c'est vraiment un peu la vision qu'on a de soi. Et en fait, mon problème de l'ego, c'était quoi? Eh ben, c'est que je pensais, par exemple, courir à 10 km/h, et à un moment donné, je me rends compte que je cours à 9 ou à 8. Quand je regarde ma montre, je me dis, mais attends, tu devrais être en 6.00 là au kilomètre, et en fait, t'es en 6.30. Tu penses que t'avances, et en fait, quand tu regardes, tu te dis, ouais, là, je suis pas mal, j'avance bien, même à un moment donné, je me suis dit, tiens, tu vas être en 5.30 ou quoi que ce soit, aux sensations, et je regarde, je dis, non, mais je suis en 6 et quelques. C'est-à-dire que là où je pensais être à 11, j'étais à 10, là où je pensais être à 10, j'étais à 9, voire à 8, et puis dans les montées, j'avançais pas, etc. Et c'est là qu'en fait, le problème de l'ego, il intervient, c'est-à-dire, eh ben, et vous l'avez, ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça intervient après la comparaison, c'est-à-dire qu'on y rajoute la comparaison des réseaux sociaux. Vous me l'avez dit, on en a parlé, je l'ai déjà dit, sur Strava par exemple, je ne mets plus souvent, plus systématiquement toutes mes courses, parce que des fois je disais que j'étais un coureur lent, et puis en fait ma vitesse de lent à moi était rapide pour certains d'entre vous, et puis ma vitesse de lent à moi, pour certains d'entre vous, elle est vraiment lent, et tout. Donc la vision qu'on en a, c'est de dire, bah, je ne vais pas donner cet élément de comparaison qui est le temps, qui est la vitesse que je cours, etc. Mais en même temps, moi, je l'avais, cette vision-là. Et moi, je me dis, bah, ces kilomètres, ça me passe pas vite, le temps qui augmente, j'avais prévu de faire tel temps, et puis finalement, j'en mets beaucoup plus, je suis pas si bon que ça, je suis pas doué, enfin, vous voyez, tous ces trucs-là, là, qui je peux dire. Et ben ça, en fait, c'est pas un problème de confiance, quoi que ce soit, c'est une question d'ego, parce que en fait, il fallait que je revienne, en fait, à mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est quoi? Mon pourquoi à moi, c'est d'être en forme, c'est devenir champion du monde de mon monde, c'est d'être un athlète sportif, un athlète pro, ma manière, d'avoir la vie d'un athlète pro, de le financer, ma manière. C'est pas d'être le champion du monde, c'est pas de gagner la course, c'est d'être champion du monde de mon monde, c'est pas d'être recordman du monde. Bien sûr qu'il y en a qui ont couru plus vite. Si on prend par exemple Lilian que j'ai eu en invité dans le podcast, j'ai eu deux fois dans les deux podcasts, Lilian Doza, il a réussi le 487 challenge. Et il le court plus vite que moi, mais je me compare pas à lui. Le but du jeu, c'était de faire les 496 kilomètres. C'est ça, le but du jeu. Et je les ai atteints. Alors, c'est sûr que je mets plus de temps que d'autres. Mais en fait, je regarde aussi qu'il y en a des centaines d'autres qui, eux, n'ont pas réussi, qui, eux, n'ont même pas tenté de le faire. Mais si je rentre dans cette comparaison-là, bon, ça va me rassurer moi, ça peut me rassurer moi. Et en fait, ça rassure qui ? Ça rassure mon petit ego. Parce qu'en fait, le manque de confiance en moi, plus mon ego, qui est quand même assez élevé finalement, quoi que j'en pense, fait qu'en fait, il y a une dissonance dans cette histoire-là. C'est de dire, j'aimerais bien avoir cette image-là de moi, j'aimerais bien renvoyer cette image-là de moi à vous, tous, qui m'écoutez, qui regardez ce que je fais sur Instagram, etc. Et dans le même temps, en fait, eh ben, je me rends compte que j'ai pas les compétences. Et là, l'écart, il est important. Et donc, je me suis recentré en me disant, bon, bah, ça, il faut que je réfléchisse là-dessus, il faut que je travaille là-dessus pour dire comment, finalement, j'arrive à gérer ce truc-là. Et puis, c'est là la préparation mentale, l'apport qu'il me donne, c'est me dire, bon, bah, rappelle-toi que est-ce que ça te permet de progresser? Oui. Est-ce que tu peux apprendre des choses? Oui. Est-ce que tu te sens compétent pour le faire? Est-ce que tu gagnes en compétences? Oui. Est-ce que tu gagnes des nouvelles compétences? Oui. Est-ce que tu as mis en place des routines? Oui. Quand ça va pas, est-ce que tu mets en place, est-ce que tu as une petite routine pour que ça aille mieux? Par exemple, il y a des moments où je me disais, bon, ça va pas très bien et tout, comment tu fais? Et je me disais, bon, maintenant, tac, tu dis, tu avances, tu regardes tes pieds, tu fais, vas-y, un pied après l'autre. Ça, ce sont des routines de préparation mentale. De routines de préparation mentale, c'est-à-dire que, à un moment donné, il y a un déclencheur, je me sens pas bien, à ce moment-là où je sors de ma concentration, où je pars ailleurs, où je suis plus dans l'instant présent, je suis plus là présent avec moi, je dois revenir dans l'instant présent et me dire, bah maintenant, tu regardes tes pieds, tu regardes où tu me poses tes pieds, tu te concentres sur le fait que tu avances, pas après pas, tu ne regardes plus ta montre, tu dis j'y vais et j'avance. Et puis en même temps, je mettais de la musique et c'est là où il y a certaines chansons qui m'ont beaucoup aidé. Alors je vous mets pas les extraits parce que sinon, on va avoir des problèmes avec les plateformes type Spotify et compagnie, mais je mettrai sur le site les liens vers les clips. Par exemple, je le redis, ils sont fous, il y a Youssoupha, il y en a une ou deux de Youssoupha, il y en a quelques chansons de Relsan qui m'ont marqué parce que les paroles, etc. Je me suis dit, mais ce qu'il raconte lui dans le rap, ce qu'il raconte lui dans les projets, etc., on peut le transposer aussi dans ce qu'on fait dans la course à pied, dans ce qu'on fait dans le sport, etc. Et puis, j'avais cet apport, en fait, de la préparation mentale qui est de me dire, raccroche-toi à ce qui amène l'hypermotivation. L'hypermotivation, c'est en fait la motivation intrinsèque que j'ai en moi, qui est plus large. On revient à cette notion du grand pourquoi. Le grand pourquoi, c'est d'être sportif pour ma manière, champion du monde de mon monde. Mais pourquoi je le fais? C'est parce que je veux avoir. J'ai construit, et on en parlait tout à l'heure sur l'organisation. Je disais, moi, j'ai construit une vie où je travaille à la maison sur quelque chose qui me passionne. Je fais des contenus sur des sujets qui me passionnent. Rencontrer des gens par le biais du podcast, les interviewer, poser des questions, vous aider les uns les autres, ça me passionne. J'adore ça. Et j'ai vécu longtemps en tant que salarié, à me faire chier. J'étais salarié, j'étais victime de harcèlement et tout. Et j'ai dit que je voulais pas retomber là-dedans, je veux pas retravailler là-dedans, c'est pas ça mon truc. Et oui, bien sûr qu'il y a des gens qui me disent dans la famille, mais travailler dans sa passion, c'est n'importe quoi. Et c'est là d'ailleurs où je trouve des parallèles avec certaines musiques de rap que j'écoutais, où je crois que c'est Orelsan, mais je crois que Youssoupha aussi le dit, c'est de dire la famille, les parents, ils t'expliquent trouve-toi un métier qui gagne de l'argent, etc. C'est ça le plus important, le reste c'est pas important, trouve un boulot alimentaire, famille, etc. Et puis quand t'as 50 ans, t'as envie de te foutre une balle, quoi. C'est à peu près un petit peu le truc. Et moi, en fait, si on pouvait parler globalement, alors je sais pas si on peut parler d'une mission de vie, de raison d'être, c'est un peu compliqué de le présenter comme ça, mais c'est de dire qu'en fait, par le sport, mais aussi par le podcast, par la création de contenu, je crée ma vie telle que moi j'ai envie de la vivre. Et en fait, vous voyez, je redis le 31, j'ai fait une sorte de parcours, donc au début j'ai prévu de faire un coffee run, finalement on n'a pas fait le coffee run parce que mon fournisseur de café... Là où je veux boire le café d'habitude, bah il est malade et donc on a pas tenté le diable et puis il était pas sur le marché, etc. Donc j'ai changé de plan. J'ai dit bah tiens, je vais partir dans Clermont. Moi j'habite à Cournon, c'est à 13 km. Et je vais dire je vais aller Place de Jode, qui est la grande place, mais ça fait que 13. Après quand je reviens, ça fait 26, il en reste 5. Qu'est-ce que je fais? Donc je me suis dit je vais faire un petit parcours et je vais passer par des endroits un peu emblématique, faire un peu le guide touristique. Et puis ensuite, ces endroits emblématiques de la ville sont devenus des endroits emblématiques de ma vie à moi. Je suis passé par mon collège, je leur dis, par mon école maternelle et par là où j'habitais quand j'étais gamin. Et donc, c'est là où j'ai repensé à ce truc-là en me disant, quand j'étais gamin, bon, Internet n'existait pas. On n'y avait pas accès, ou ça existait que dans des laboratoires de recherche, mais j'avais pas accès. J'avais un ordinateur, je programmais des jeux. Je crée donc en fait des petits jeux et tout sur mon ordinateur. Je jouais surtout, je faisais beaucoup de vélo, je courais dans tous les sens, on jouait à plein de trucs, on faisait des courses, on faisait du tennis, du foot, on jouait au foot toute la journée ou presque. On n'avait pas de terrain de basket, mais je jouais au basket à l'école. Ma sœur jouait au basket, elle était championne de France en jeune, en basket. Et en fait, mon truc à moi, c'était de vouloir faire du sport. Ma mère voulait que je fasse du violon, voulait que je prenne mes leçons et tout. Moi, j'ai pas envie, j'avais envie de bouger, j'avais envie de faire du sport. Mon rêve à moi, c'était d'être, à l'époque, c'était Yannick Noah qui gagne Roland Garros. C'était le Tour de France que j'ai vu même, j'ai vu une arrivée de Tour de France au sommet du Puy-de-Dôme, par exemple. Je me rappelle les départs du Tour de France. Tout ça, en fait. C'était ça l'image que j'avais. Les champions du monde, Tigana, Platini, enfin les champions du monde, qui étaient presque champions du monde, vous voyez, perdus en demi-finale, les choses comme ça. Mais les champions d'Europe, les Girondins de Bordeaux de mon enfance en foot, puis ensuite les grandes équipes, enfin tout ça en fait, c'était ça mon rêve. Gamin, je voulais être ce champion-là, je voulais juste faire du sport. Je rêvais d'être un champion, c'était mon truc. Quand on m'a dit plus tard, qu'est-ce que tu veux faire? Je disais pas, je veux pas être, je connaissais pas les métiers que je pouvais faire. Et puis plus tard, bien sûr, ça s'est gâté. Bien sûr, plus tard, il y a des trucs que je pouvais pas faire. J'avais peut-être pas le niveau en foot. Bah oui, mais en fait, on saura jamais ce que j'aurais pu faire en foot. Ou c'est sûr que moi, j'ai des copains de mes équipes. Certains étaient pris en centre de formation. Je pense que dans tous ceux qui sont partis en centre de formation, il y en a aucun qui a fait une carrière pro. Il y en a même certains qui ont fini largement blessés. Dans tous ceux qui étaient avec moi, il y en a aucun qui ont fait une carrière pro. J'avais beaucoup de gars qui étaient avec moi. Au foot, bon, il y en a un ou deux, il y en a un qui est mort dans un accident, il y en a un autre, je pense qu'il, j'avais vu un petit peu, mais il avait pas fait beaucoup de foot, d'autres, un autre qui était blessé. Donc, ils ont pas eu non plus, à devenir champion du monde de foot, ils se rendent pas compte, mais c'est un sur des millions qui veulent faire ça. Mais, par contre, là, je me rends compte que pouvoir être athlète pro à ma manière, c'est possible. Et en fait, on peut tous le faire. C'est-à-dire qu'on peut tous avoir ce mode de vie. C'est pas obligé. Là, on parle de course à pied, mais on pourrait être dans le vélo, on pourrait être dans le cheval, on pourrait être dans j'allais dire la mobylette. Je sais pas quoi, en fait. Mais, en fait, c'est quoi? Parce que, un sportif pro, en fait, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'énergie, qui s'organise pour arriver à la meilleure performance qu'il peut. Et c'est sûr que les sportifs pro, eux, ils sont dans une compétition, que le mec est champion du monde, le vrai champion du monde, il est champion du monde, quoi. Mais, on peut tous être champion du monde à notre manière. Champion du monde de notre monde, c'est ça le concept. C'est-à-dire qu'on définit le monde dans lequel on est champion. Et puis certains, ça va être champion de la micro-aventure. Certains, c'est de la champion de la micro-aventure de nuit autour de sa maison, aller faire 50 bornes en vélo de nuit. Hein, on va en parler bientôt de ces choses-là, de ces gens-là. D'autres, ça va être de faire une dernière debout, une course de dernière debout. D'autres, ça va être de faire un ultra à leur manière. Regardez les invités que j'ai eus, ceux qui ont invité leur propre course, qui ont inventé leur propre défi. Pour d'autres, c'est courir à 24 heures, de finir à 24 heures. C'est aussi être champion du monde de son monde, selon les parcours. Pour d'autres, ça va être de courir une course à 70 ans. Pour d'autres, c'est de faire un... Chacun, on a ce monde dont on peut être le champion, en fait. Et en fait, on a des conditions qui font que c'est pas facile, hein, vraiment c'est pas facile. Et dans ce truc là en fait, c'est à ça que je me suis raccroché, c'est à me raccrocher en me disant ah là là, pourquoi tu fais tout ça? Et ben parce que je veux être champion du monde de mon monde, parce que je veux être un athlète à ma manière, parce que j'ai envie, tout simplement. J'ai envie, cette envie là, ce truc là, il est en moi, et j'ai envie de le faire pour moi et j'ai envie de vous aider à le faire. Ce que j'ai fait dans ce défi-là aussi, c'est d'aller chercher des éléments, de dire, bah ça, je sais comment on peut le faire. Si vous avez envie de faire ça, je suis capable de vous aider à faire de ce type de défi, vous aider à vous organiser, à penser les choses. Et on peut en discuter. Je peux vous aider à le faire. Si vous avez envie de communiquer sur un tel projet, si vous avez envie de monter votre compte Instagram, de développer votre compte Instagram, si vous avez envie de créer un podcast, une chaîne YouTube, du contenu autour de quelque chose qui vous passionne, un sport, vous vous dites, bah comment je peux le faire? Je peux vous aider aussi, parce que c'est aussi ça, être champion du monde de mon monde. En fait, je serai jamais le meilleur des sportifs. Je suis pas la star des réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Je suis pas, y a des podcasts qui sont plus écoutés, etc. Mais le cumul de l'ensemble fait qu'en fait, j'ai mon monde à moi. Mon monde à moi, il est là. Et j'en suis le champion. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement le concept de ça. Et vraiment, en fait, c'est à ça que je me suis raccroché. Et donc, je sais que j'ai cette histoire d'ego, là, qui est important, c'est de dire, j'aimerais être un coureur plus rapide, j'aimerais aller plus vite, j'aimerais courir plus longtemps, plus facilement, j'aimerais faire ça, ça et ça et ça, mais pour l'instant, je n'en suis pas capable, donc ça, il faut que je m'occupe de le régler, d'arriver à le mettre de côté et de faire ensuite les efforts, les éléments qui me permettent de pouvoir le faire. Mais je ne dois pas attendre d'être un jour peut-être capable de le faire pour me dire que j'ai droit de me dire être un athlète à ma manière, sportif pro à ma manière ou quoi que ce soit. Parce que c'est pas ça. À l'instant, avec ce que j'ai fait, en fait, je dois dire, je suis champion du monde de mon monde. Sur ce défi-là, je l'ai réussi. Et c'est un truc qui me semblait impossible à faire et que j'ai réussi. Et donc, de cette manière-là, j'ai réussi à être champion du monde de mon monde. Et pour d'autres, ça va être un projet beaucoup plus court. Et c'est ce qui va m'amener, en fait, sur d'autres questions qui m'ont été posées, notamment sur tous ceux qui se posent la question de faire un défi de ce type-là. J'ai appelé ça la rubrique un peu faire pareil. Par exemple, Desi Caro me dit, y a-t-il une version de ce challenge accessible aux débutants ou en reprise? Alors, oui, j'ai envie de dire qu'il y a un moyen facile, c'est de diviser les distances par 10. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 1 km le premier jour, faire 100 mètres, puis le deuxième jour, faire 200 mètres, et le dernier jour, finalement, ben, on arriverait quelque chose sur 3 km 1 pour un débutant, en courant un petit peu, et ce qui fait une dernière semaine, j'ai pas calculé, mais on va dire à 19 km, quelque chose comme ça, et qui pour un débutant, je pense, est un bon truc, avec un peu d'alternance, marche-course, etc. Je pense que si tu fais un truc dans le genre-là, c'est un bon petit premier défi. Enfin voilà, soyons honnêtes, ça oblige à aller courir tous les jours, ça oblige à prendre cette nouvelle habitude, de mettre en place cette discipline, de se rendre compte, de dire, oui, au début, c'est faire que 100 mètres. Et alors, après ces 200 mètres, on s'en fout. C'est là où on met de côté les histoires d'ego, de dire, on n'a pas besoin de le raconter à tout le monde, etc. non plus. Vous pouvez le garder pour vous, ce truc-là. Mais à la fin, de dire, bah voilà, je courais pas, j'ai réussi à faire ça. Ça, c'est déjà un sacré truc. Et puis on pourrait dire, on peut le faire dans d'autres sports. Par exemple, faire des pompes, des abdos, des étages montés. Un jour, je monte un étage par jour, ensuite j'en monte deux, puis trois, et puis le dernier jour, je me débrouille pour monter 31 étages. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Alors c'est sûr que le jour où il va falloir monter 31 étages, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, chacun son truc. Ça peut être, on peut avoir chacun ses variantes. Les pompes, c'est facile, hein. Une pompe un jour, deux pompes le deuxième jour, trois pompes. Même faire 31 pompes, franchement, à la fin, c'est pas si compliqué que ça d'arriver à faire 31 pompes. Il faut pas très longtemps pour faire 31 pompes. Je peux vous le dire, j'en faisais 100 tous les matins à une époque. En quelques minutes c'est fait, hein. Donc c'est pas très compliqué, ça va pas vous prendre 3 ou 4 heures comme d'aller courir 31 bornes. Donc on peut le faire, mais même en courant, pour y avoir ce truc de dire, premier jour je cours 100 mètres, deuxième jour 200, 300, etc. Et à la fin, bah voilà, ça m'amènera au coureur autour de 3 km. Mais sur le globalité, sur la totalité, et ben on va se rendre compte qu'à la fin, bah oui, ça fait 49 km de couru. Presque 50 km de couru, et que bah si on n'a jamais couru jusqu'à maintenant, et ben c'est une sacrée distance, et qu'il y en a dans le mois qui ne courent pas autant, parce qu'il y a des gens, il faut se le dire aussi, qui vont courir une fois le samedi, qui ont l'air de coureurs, qui ont la tenue coureur, qui vont courir une fois le samedi et qui vont courir 7-8 km chaque samedi, mais qui le font 4 fois par mois. Et ben si on fait la multiplication, ça fait 30 km. Et ben si vous courez 49 km en faisant de cette manière-là, et ben vous avez couru deux fois plus que quelqu'un qui court une fois toutes les semaines 7 km. Voilà, c'est presque mathématique. Enfin, c'est presque, j'arrondis un peu, mais vous avez compris la logique. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez le faire de cette manière-là. En tout cas, c'est une manière de le faire. Alors, ensuite, j'ai une question de Marotami. Quel conseil donnerais-tu à un ami qui voudrait faire le 496 challenge? Eh ben, j'en ai un petit peu parlé. Un, c'est de se reposer dès le début. De prendre en compte le repos, de dire qu'il faut accumuler du repos pour être en forme à la fin. Un des invités que j'ai dans le podcast qui va être diffusé dans Sport Nutrition dit un truc intéressant, c'est de dire que ceux qui gagnent les UTMB, les grandes courses comme ça, sont finalement ceux qui arrivent à gérer le sommeil, la fraîcheur physique, etc. d'arriver au bout. C'est pas celui qui va forcément le plus vite, mais c'est celui qui est capable de le tenir le plus longtemps avec un sommeil, moins de sommeil, etc. Et là, j'ai envie de dire que pour arriver à ce challenge-là, c'est celui qui garde le plus d'énergie tout au long du temps. Et pour l'énergie, en fait, il ne faut pas oublier que c'est un challenge ultra, que le créateur de ce challenge, de celui qui l'initie en tout cas sous cette forme-là, c'est un coureur d'ultra. C'est pas un coureur de vitesse, en fait. Et c'est là où je reviens aussi sur une question, par exemple, de Xavito qui me dit courir tous les jours un peu, oui, courir trop, j'en vois pas bien les bienfaits, le corps a besoin de repos. Ben c'est sûr que ça, on va pas le faire toute l'année. Toute l'année, on peut pas faire ce genre de défi, courir toute l'année cette distance-là, etc. Certains le font. Certains le font, ça veut pas dire qu'ils se cassent, etc. Ça veut dire qu'il faut mettre en place les éléments pour le faire et qu'ils le font pas du premier coup. Ça, c'est sûr. Mais certains le font. Mais ne pas oublier que là, c'est un challenge ultra. Donc, quelqu'un qui veut faire ce challenge-là, eh ben, en fait, il faut d'abord qu'il se dise un truc, c'est quelle vitesse il veut le faire, comment on fait pour ne pas courir trop vite pour pas entamer. Parce que il se passe quelque chose, quand même. Et ça, je l'ai constaté. Il y a un jour, j'ai voulu accélérer, j'ai voulu faire un peu de vitesse. Je l'ai payé pendant 3 jours. Pourquoi ? Parce que le jour où je fais de la vitesse, les muscles se mettent à travailler plus, la pression, tout ça se met à devenir plus compliqué, ça devient beaucoup plus difficile de faire la distance, de courir comme ça, etc. Et donc, à un moment donné, le lendemain, j'avais mal aux jambes, le surlendemain, j'ai mal aux jambes, alors que j'avais plus mal aux jambes que le lendemain de mes 28 km ou de mes 29 km. Alors que juste parce que j'avais fait de la vitesse, parce que j'avais voulu accélérer ce jour-là. Mais j'étais bien ce jour-là, j'ai voulu accélérer, c'était cool, etc. Mais c'est le fait de travailler en vitesse, c'est différent. Je me rends compte ça, par exemple, sur quand j'allais aux entraînements de running, au club, le mercredi soir, c'était les séances VMA. Le soir après la séance VMA, j'étais totalement cassé et le lendemain, j'étais totalement cassé. Fallait faire une petite séance de décrassage, etc. J'étais totalement cassé. J'étais plus cassé le jeudi après une séance de VMA où on avait fait au total 13, 14 km, 15 km avec une 5 à 6 km à fond que le lundi matin après une séance de 21 ou 22 km quand c'était de la préparation marathon en sortie longue. Voilà. Parce que c'est pas le même travail. Et donc, pour répondre à ta question, Marotami, ne pas oublier que c'est un challenge ultra et pas un challenge de vitesse. Que le but du jeu, c'est de faire le kilométrage et pas de faire le kilométrage un certain temps. On n'est pas... C'est là où je reviens sur l'histoire d'ego. Il faut se dire, je dois faire mon kilométrage. Si je dois mettre 3 heures pour faire cette distance-là au lieu de mettre 2h30, si je n'avais couru que 2 fois par semaine et que ce jour-là, j'étais frais, etc. C'est le jour où je fais mon semi... Le tort que j'ai, c'est de me dire, bon, mon semi, si je mets, on va dire, 1h50, par rapport à mon temps que je fais en course, etc., on sera pas mal. Mais en fait, non. Je vais pas me dire, je fais mon semi à 12 km/h. C'est pas possible. C'était un semi qui était fait après un jour où j'avais couru 19, un jour où je vais courir 22, qui est fait alors que j'ai déjà fait peut-être 190 km de course. Donc, l'énergie, quand on fait un semi, quand vous préparez un semi, vous avez la prépa, et puis ensuite, vous avez l'affûtage pendant 10 ou 15 jours. Avant un marathon, vous avez 12 semaines de prépa, et dans les 12 semaines de prépa, il y a 2 semaines d'affûtage, où on fait beaucoup moins de choses, etc. Et là, le corps, ensuite, il va courir 42 km sur un corps frais. Ben là, on l'a pas, ce corps frais. On a toujours un corps très fatigué. Sur ma montre, Coros, j'étais à 100% de fatigue. Il montrait que j'étais au maximum de la fatigue de ce qu'il connaissait par rapport à mon corps. Ben, la charge d'entraînement, il n'avait jamais connu ça. Donc, forcément, que la vitesse va être adaptée. Sur le faire pareil aussi, j'ai une autre question. Marie-Lise Duguay, comment gérer les rotations, tenues et chaussures quand on court tous les jours, quand on court autant que toi? Alors, rotation de chaussures, évidemment, moi je le dis, à la maison, je tourne avec 3 paires de Altra, et encore j'ai une paire de trail en plus, donc on va dire on a 4 paires de Altra, plus les sandales, plus mes pieds. Bon là les pieds nus en ce moment en plein hiver non, les sandales certains mettent des chaussettes etc à doigts avec des chaussettes vous savez à doigts Ninja là, c'est peut-être une solution. Moi j'avais décidé de faire ce challenge surtout pour partir 3 heures plutôt de faire en disant je vais courir en basket, pas les trails parce que j'ai trouvé un peu lourde et parce que ça m'aurait obligé d'aller courir que sur du chemin donc faire plus de dénivelé, donc j'ai préféré prendre. Souvent, je prenais mes escalantes qui sont parfaites pour moi parce que je sais que musculairement, pour revenir sur les histoires des blessures, vous voyez, j'aurais pu être tenté de me dire, bah tiens, il faudra prendre une paire type les taurines ou je sais pas quoi, prendre des nouvelles chaussures. Non, pas prendre des nouvelles chaussures à faire parce que non, des chaussures là, elles commencent à être un peu usées. Là, je vais très bientôt à la corde. En fait, je sais pas combien de kilométrage au total, mais mes anciennes escalantes, elles fait 1200 km. Celle-ci était autour de 800-900, voilà, à peu près dans ces zones-là. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont un petit peu de marge encore, mais pas beaucoup quand je regarde l'usure des mousses, etc. Donc, elles n'ont pas tant de marge que ça. Mais bon, elles en ont peut-être un petit peu. Mais bon, bref. Après, j'ai une paire de escalant traceur qui a beaucoup moins de kilométrage. Et puis, j'ai ma paire de Vanish XC, qui est un modèle très minimaliste, qui a encore beaucoup, qui est presque neuf. Hein, j'ai eu en octobre pour mon anniversaire. mais là qui travaille encore différemment le corps. J'aurais pu être tenté de me dire je vais partir sur une paire type des taurines, vous voyez, qui sont plus épaisses comme j'avais à une époque, sauf que je me rappelle que les taurines avec la semelle épaisse, on en a parlé avec Sébastien Merel, le fait que les chaussures soient hautes et que comment je cours fait que mon pied s'il sort un peu vers l'extérieur, ça fait des nouvelles tensions, c'est ce qui m'a provoqué ma périostite. Donc les blessures aussi, je les ai limitées du fait que je suis resté sur des chaussures que je sais qui sont adaptées à mon pied, que j'ai pas les rotations, que j'ai pas ça, etc. J'aurais pu courir, par exemple, je m'étais posé la question un jour de dire, tiens, je vais prendre, pour avoir plus d'amorti, je vais partir avec les Adidas, les Ultra Boost. Mais je me suis dit, là non. Sur les Ultra Boost, sur les quelques kilomètres, sur des petites séances de quelques kilomètres, oui. Mais sur plus longtemps, je préfère partir sur des chaussures type les Escalantes où je sais que mon pied ne va pas partir sur l'extérieur, n'est pas trop haut, ne va pas faire les bascules, etc. Et ça, c'est un élément qui était important pour moi. Certains vont dire oui, mais courir en drop zéro, les tendons, ça tire, etc. Moi, ça fait 4 ans ou 5 ans que je cours en drop zéro. Les tendons sont habitués, je cours en sandales, j'ai oublié dans ma rotation que je peux courir en five fingers aussi, si j'ai voulu, donc on peut dire que je peux faire une rotation sur 5-6 paires de chaussures assez facilement. Et puis, sur les tenues, ça c'est un peu plus compliqué, y a des jours, franchement, mon t-shirt de course, il sentait tellement mauvais quand je suis rentré, je me disais, oh là là, comment tu vas faire demain? Alors, c'est là où on met au point quelques stratégies. Déjà, j'ai deux coupe-vent. J'avais un coupe-vent un peu léger, puis un coupe-vent un peu plus épais. J'ai fait des stratégies, comme des fois, j'ai couru très tôt le matin. J'ai des coupe-vent sans manches, mais qui sont vraiment coupe-vent, qui sont faits pour de la fin de saison, genre septembre, etc. Je me suis rendu compte que c'était des super sous-couches. C'est-à-dire qu'en fait, je peux mettre un t-shirt manche longue, je mets ça par-dessus pour bien couper le vent sur le poitrail. J'ai une polaire de course aussi, un peu. Et puis, si par-dessus, il fallait encore, s'il pleuvait un peu ou un peu humide, je peux encore mettre ensuite un coupe-vent, donc je pouvais partir jusqu'à 4 couches. Alors, bien sûr, quand je rentre, ça pue. Mais en fait, en ayant plusieurs de ces vêtements-là, il y a des jours, je partais avec l'un, des jours avec l'autre, etc. Et puis, les chaussettes, maintenant, j'en ai. En plus, j'ai des chaussettes à Noël, donc j'ai une nouvelle chaussette, pas de souci. Niveau short, je tourne avec 3 shorts, en fait. Donc, quand vraiment, il faut pas... Quand vraiment, j'en ai plus, j'ai un short... type trail, mais je le perds en fait. C'est là où je finis par perdre mes vêtements, mais mes vêtements, en fait, j'avais acheté ce short quand je m'étais mis à faire du trail il y a 3-4 ans à ce moment-là, et ben depuis j'ai perdu un petit peu une taille de pantalon, donc je le perds. Donc de temps en temps je vais le mettre, etc., mais je le mets moins parce que je suis pas à l'aise. Au bout d'un moment, c'est chiant de le perdre. Et donc en fait, il y a aussi un truc à la maison, c'est que je fais tourner les machines presque tous les jours. Mais pas que pour mes affaires de running, c'est-à-dire que il y a des jours, la machine elle tourne pour mes affaires de running, donc j'arrive à faire tourner sur 2-3 jours. Et puis parce que j'ai pas beaucoup de vêtements de running, soyons honnêtement, j'en ai pas beaucoup, je tourne sur quelques t-shirts, sur quelques éléments, etc. Mais je tourne sur quelques éléments, et puis bien sûr, bah après j'y rajoute. Je remplissais la machine avec un jour fallait laver les plaids, un jour fallait laver les culottes de ma fille, un jour faut laver je sais pas quel truc, un autre jour il faut laver ça, enfin voyez, truc un peu comme ça. Et je me disais, j'en profite de laver des trucs super sales avec d'autres trucs super sales. Genre un plaid de ma fille quand elle un jour elle voulait prendre la poussette. Et on a roulé sur le plaid avec les roues, donc c'est bien crade. Et je dis, bah là, je vais mettre avec mes affaires de running, hop, ça va tourner. Je peux mettre des petites boules pour que ça sente bon et tout. Bah voilà, tout un tas de trucs. Mais franchement, c'est pas le problème. Les vêtements, c'est pas le problème. Il y a même des jours, j'ai commencé à faire une vidéo sur le sujet, j'ai pas fini, mais je finirai de la faire. Mon problème principal, c'était de choisir mes chaussettes. Mais il y a des jours, je vais par exemple, il y a des jours, je suis en chaussettes de ville, vous voyez, des chaussettes noires, marron, je sais pas quoi. Et des jours, j'ai la flemme de changer de chaussettes pour aller faire mes fameuses courses de, vous voyez, mes 10 minutes par jour, là. Et ben, je vais courir avec mes chaussettes classiques. Il y a des jours, je vais courir sans chaussettes. Alors là, pas pendant le défi, mais pas en hiver. Mais par exemple, sur l'été, il y a des jours, je vais courir en sandales parce que j'ai la flemme de trouver une paire de chaussettes et de mettre des chaussettes. Il y a des jours, je choisis des chaussettes parce qu'elles sont plus faciles à enfiler que d'autres. Voilà, il y a des espèces de petites variations comme ça, mais c'est pas ce problème-là. Franchement, c'est pas ce problème-là. Moi, je me suis rendu compte que si tu vas courir 2-3 km, tu peux prendre n'importe quelle chaussette, c'est pas un problème. Franchement, c'est pas un problème, ça change rien du tout. Et j'avais une dernière question dans cette catégorie, c'est Lilian qui me demande: pour ou contre des mois à 42 jours? Lilian, j'ai pas calculé le nombre de kilomètres que ferait 42 jours de ce rythme-là, mais moi c'est non. Même si je me suis posé la question de savoir si la finalité de ce projet-là, de ce 496, c'était pas de placer un jour un marathon pour valider en fait le volume, c'est-à-dire dire là je mets 15 jours de repos et de finir sur un marathon dans 10 ou 15 jours. Mais non. Parce que maintenant, on va attaquer la suite et vous dire ce que c'est la suite. Parce que j'ai eu des questions sur la suite. Kylian Tanguy qui me dit « Tu enchaînes en février ?» Non, la réponse est non. Je n'enchaînerai pas en février. Je ne vais pas enchaîner là-dessus. J'ai fait une promesse à ma femme, c'est de reposer mon corps et d'éviter de partir à droite à gauche comme ça sur de la journée. Et parce qu'il y a des journées, ben voilà, heureusement qu'elle était là pour gérer aussi, parce que quand ma fille va pas à l'école et que ben qu'il faut la garder, c'est ma femme qui l'a gardée. Il y a un ou deux matins, si j'ai rentré un peu tard, ben c'est ma femme qui devait qui gérait le réveil, là où moi j'aurais voulu gérer le réveil, etc. Donc il y a des trucs comme ça qu'il faut organiser. Donc non, en février je n'enchaîne pas, même si le mois de février, si on regarde un petit peu, ça faisait 120 km de moins à faire, hein, parce que 90 jours, les trois derniers jours, vous voyez, 28, 29, 30, 31, non, il y a 90 km de moins à faire quand même, donc ça fait moins de kilométrage, mais là non. Par contre, ce que j'ai dit à ma femme, c'est que je ferai pendant ce mois un miles par jour, donc je vais continuer à courir tous les jours, mais un miles par jour, pas plus. Peut-être un peu plus, un jour où ma fille va au yoga, des choses comme ça, mais à peine. La moyenne de kilométrage, vous allez voir sur mon Strava, va être vraiment, 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 vraiment très très faible. Ce qui me permet d'arriver sur une question de nature run, comment se fait la récupération après. Eh ben, vraiment, je le dis, hein, ce mois-là de février va être un mois de récupération, avec des petites séances qui seront plus courtes, peut-être, alors au début peut-être un petit peu molle, un peu de dynamisme. Hier j'ai mis un peu de dynamisme dedans, c'était marrant parce que de se dire, tiens, aujourd'hui je vais courir qu'un kilomètre 6, je sais que j'ai qu'un kilomètre 6 à courir, et ben j'ai mis un peu plus d'énergie dedans, j'ai mis un peu plus de vitesse, donc je cours un peu plus vite. Je me demande si je vais pas faire des séances un petit peu du style, dans mon kilomètre 6, placer des choses avec des pompes au milieu, avec du mur, des choses comme ça. Je vais retrouver un parcours qui fasse autour de 2 km, mais dans lequel je placerai des exercices, faire la musculation sur un banc, faire des sauts de marche, sur un trottoir, des choses comme ça, travailler un petit peu physiquement, une sorte de PPG, et un peu de dynamisme, et puis même en faisant 1,6 km, sincèrement, on peut se mettre même une petite séance avec quelques escaliers, des choses comme ça, pourquoi pas. Donc ça va être ça mon mois de février en fait, c'est travailler vraiment de cette manière-là. Et en tout cas, c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc ça me permet, j'ai d'autres questions hein, qui me demandaient ça, voilà, c'est comme ça. J'ai une autre question qui m'était posée par Pierre-Yves, qui me disait, tu nous le refais plus tard dans l'année avec une sortie unique par jour. Alors ça, Lilian par exemple l'a fait avec une sortie unique par jour. Moi, pour l'instant, je n'ai pas la capacité en temps et en physique de le faire. Si je courais à 10 km/h, si je pouvais faire tout le truc à 10 km/h, au maximum, ça me ferait une dernière sortie qui ferait 3 heures et quelques. Si on place ça sur l'été, je me dis honnêtement, si on place ça sur l'été, en pouvant courir, en étant sûr que ma fille va bien à l'école, en courant le matin, par exemple, je peux partir au lever du soleil à 4 heures du matin, revenir à 7 heures, il y a plein de jours où ça passera en une seule fois si je cours à cette vitesse-là. Mais en courant à la vitesse à laquelle j'ai actuellement, non. Il faudrait d'abord que je sois capable de courir plus vite, et mon ambition c'est de retrouver ma VMA, de vraiment plus travailler ma VMA, ce sera mon ambition des mois qui viennent, c'est de retrouver de la vitesse et refaire de la vitesse. On parlait de VO2 max et compagnie, tous ces trucs là, il faut faire du fractionné court, fractionné long, allure marathon, etc. Là j'ai construit une sacrée base de foncier, une sacrée base mentale et tout ce qu'on veut, mais maintenant il faut que je travaille de la vitesse. Je vais reprendre plutôt de la vitesse, je vais faire de la muscu, faire le travail de vitesse, des marches, des côtes, tous ces trucs-là, pour vraiment essayer de retrouver de la vitesse. Parce que d'une part, j'aime bien aller un peu plus vite, et puis d'autre part, bah, sur ce genre de sortie, ce genre de projet, quand on court un peu plus vite, et qu'on a une distance à faire, et ben on la fait plus vite. Et donc, ça prend moins de temps. Et voilà, c'est logique. Alors, est-ce que je le referai un jour? Parce que ça, c'est la Trail 76 qui me pose la question. Est-ce que tu le referais? Ben, là, comme ça, je me dis, pourquoi pas? Mais je me dis, est-ce que j'aurais vraiment envie de le refaire? Et qu'est-ce que de refaire une nouvelle fois m'apprendrait à faire? Qu'est-ce que ça m'apprendrait? Qu'est-ce que ça me changerait? Ben, pour l'instant, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je ne sens pas le truc de me dire à quoi ça me servirait de le refaire. Donc pour l'instant, le projet, c'est non. Non, je n'ai pas prévu de le refaire. Je sais pas pourquoi. Par contre, le refaire dans d'autres sports, pourquoi pas? Me dire, pourquoi pas le faire en vélo, par exemple? Mais même, vous voyez, parce que mon projet de l'année, ça va être, parce que c'est ça mon prochain défi, une question de mode qui me dit, quel est mon prochain défi? Mon prochain défi, je le dis, c'est tous les mois, je vais avoir une sorte de micro-aventure. Donc un défi ou une micro-aventure. Le mois de février, mois de janvier, vous avez vu ce que c'était. Donc c'est 496. Le mois de février, je le dis, je vais commencer l'écriture de mon livre, qui va être un livre, et j'en ai déjà parlé, on en a parlé avec Sébastien Mérel, etc., autour de course à pied, podcast, et devenir champion du monde de son monde, avec, et avec, par ce, comment j'ai fait moi, et comment vous pouvez faire la même chose. Tous les jours, j'écris. Tous les jours, j'écris là-dessus. C'est le sujet, tous les jours. Hier, j'ai commencé à écrire des choses, je vais écrire aujourd'hui, j'écrirai tous les jours des choses là-dessus, pour commencer à faire ça. Ça sera mon défi créatif. Je voudrais rajouter, sans sortir de cette logique de ne pas courir plus qu'un mile par jour, pendant tout le mois de février, une sorte de micro-défi qui pourrait être un peu un truc un peu à la con, ça peut être des marches, ça peut être un peu comment faire de le plus de dénivelé en un kilomètre, enfin, un truc dans le genre là. Voilà, une espèce de truc dans le genre là. Puisque j'ai quelques passages dans mon coin là qui sont bien raides, ça peut être un truc dans le genre là. En tout cas, pourquoi pas. Mais on sera dans ce genre de défi-là. Puis après, quand on va arriver sur le moment où les journées vont s'allonger, on sera plutôt sur des choses, aller courir au lever du soleil, avec des micro-défis du lever du soleil, aller se boire un café à tel endroit en portant tout dans le dos. Enfin voilà, des trucs dans le genre-là. Et puis avec le vélo. Et donc, peut-être qu'un 496 serait possible. Parce que finalement, mars, 31 jours, on peut recommencer un 496 au mois de mars. Mais si je vais le faire, je serais plutôt en vélo. Parce que j'ai mon objectif de l'année, c'est le Gravelman. Donc, pour préparer le Gravelman, il va falloir monter sur un vélo quand même. Donc, faut que je trouve le vélo. Mais ça, je vais en parler dans le kilomètre 350 qui va pouvoir démarrer maintenant que j'ai plus de temps. Ça va être peut-être, je pourrais dire, bah tiens, un jour, je fais un kilomètre de vélo, puis deux, puis dernier, faire 31. Ce qui, bien sûr, pour un cycliste, fait pas beaucoup. Ça n'est pas un gros volume de vélo, mais ça peut être un premier mois un peu symbolique, et puis ensuite continuer comme ça. Donc voilà, ça peut être un petit peu dans cet esprit-là, mais en tout cas, est-ce que je le referai en course? Non. D'une part parce que en fait, je voudrais pas être seulement un pur coureur. Je veux être un peu. Je me vois plus comme étant un aventurier du quotidien, vous voyez, dans cette logique-là, et je voudrais vraiment rajouter le gravel cette année, et puis l'an prochain, si je veux faire l'Ironman, il faudra je rajoute de la natation, et rentrer toujours dans ces défis de type qui prennent beaucoup d'heures, ben ça veut dire qu'à côté, on peut pas faire d'autre chose. Ça peut être sur le travail, mais ça peut être aussi sur mes défis créatifs. J'ai des ambitions de défis créatifs. Je voudrais aussi développer la communauté du Hamster Zoning Club, faire des vidéos, des trucs en privé, faire plus de live, faire plus de choses. Et forcément, il y a un moment donné, cet équilibre-là, on en a parlé, il faut arriver à le gérer aussi pour ça. Et puis, on va finir par une dernière question qui est Mathieu, qui me disait « Quelle est ta source de motivation pour courir tous les jours hormis ton challenge ?» Et là, je vais renvoyer à ce que j'ai dit le jour où je me suis dit « Je vais maintenant courir tous les jours. » C'est en fait mon mode de vie. C'est mon lifestyle, comme on dit. C'est vraiment mon mode de vie. C'est-à-dire qu'en fait, l'été dernier, j'ai compris que j'étais pas bien l'été dernier et j'étais malade de la sédentarité. J'étais malade d'être retombé dans la sédentarité. Pendant des années, en fait, quand j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire, mon sport, je suis passé de cet obèse, de ce gros hamster obèse, mal dans sa peau, vous voyez, qui a du mal à digérer son ancien travail, le harcèlement, etc. J'étais encore sous antidépresseur à un moment donné, à marathonien. Puis, podcasteur, sportif. Et donc, j'ai eu ce parcours-là. Et puis l'an dernier, en fait, ben j'ai eu très peur que tout s'arrête un peu. Quand j'ai eu mon ménisque, là, quand ça a lâché, quand j'ai le genou qui était gonflé, quand on m'a dit « faut opérer », on a fait l'épisode avec Pascal Neveu en me disant « est-ce que je vais pouvoir courir ?» Puis lui, il m'a donné de l'espoir de recourir, etc. Et donc derrière, je me suis rendu compte que je pouvais reprendre petit à petit, que c'était long, je me suis senti très diminué, perte de confiance, vraiment très faible hein, dans beaucoup d'aspects. Peut-être, vous l'avez peut-être pas ressenti comme ça, mais en tout cas, c'était le cas. Et je me suis retrouvé donc pendant l'été où j'avais la sciatique, j'avais le pincement lombaire, j'étais plié en deux la moitié de la journée. J'avais du mal, vraiment du mal à bouger, je supportais pas d'être sur ma chaise, même allongé ça me faisait mal, etc. Je pouvais pas porter ma fille. Et à ce moment-là, j'avais mal aux jambes, j'avais des douleurs, je disais ça à la vitamine D. Et donc, je suis allé voir un ostéo, je suis allé voir un kiné, je suis allé voir un médecin, un deuxième médecin. Enfin, qui ont des spécialités. Et donc, j'ai vu notamment Thomas Laure Blanchet en ostéosport, qui m'avait vu après ma périostite. Et toutes les discussions m'ont fait réfléchir à un truc, et j'en avais parlé dans l'épisode où j'expliquais pourquoi j'allais courir tous les jours. Que, en fait, je m'étais concentré sur le fait qu'il fallait soigner, en fait, les choses. J'ai mal aux jambes, c'est musculaire, j'ai une carence en vitamine D, je prends de la vitamine D, je soigne mes vitamines D. J'ai mal au pincement lombaire, il faudrait prendre un anti-inflammatoire ou je sais pas quoi, ou j'en sais rien, pour soulager. J'ai une sciatique anti-inflammatoire pour faire ça, faire des massages, etc. Et en fait, à chaque fois, on essaye de soigner. Chacun que je voyais essayait de soigner, en fait, le symptôme, de résoudre le symptôme sur le truc. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, ce qui fait monter au niveau global, c'est que tout ça a été provoqué par le fait que j'étais retombé dans la sédentarité, le fait de ne pas pouvoir courir. J'ai repris des habitudes de rester plus dans mon canapé pour regarder un peu plus de séries sur Netflix, de travailler plus à la maison, au bureau, rester plus longtemps assis, de moins sortir, de pas aller marcher, moins prendre le soleil, donc moins de vitamine D, moins d'activité, faire moins attention à mes repas, faire moins attention à mon sommeil. J'étais retombé, j'avais repris 10 kilos, enfin, vous voyez, tous ces trucs-là. Et donc, il y a un moment donné, quand je m'étais regardé pendant l'été, je m'étais dit, là, il y a un truc. Tu peux pas redevenir le gros hamster, quoi. C'est pas possible. Donc, il faut que tu changes quelque chose. Et ce changement, c'était de dire que le plus simple à faire, c'est de reprendre une habitude pour avoir ma vie la plus, pas la plus saine, mais une vie plus saine. Et que dans cette vie saine, j'avais besoin de sortir, de prendre l'air, de m'aérer, de bouger. Et que c'était pas une fois de temps en temps, mais que c'était tous les jours. Que c'était indispensable pour mon bien-être mental, pour ma santé, de bouger tous les jours, de faire quelque chose, de sortir tous les jours, même si c'est quelques minutes de sortir tous les jours. J'ai pas de tapis de course à la maison. Hein. Là, j'ai couru tout le temps. Ça aurait été plus simple de courir à la maison avec un tapis de course, etc., parce que j'aurais pu le faire même quand ma fille jouait à côté et tout, ça aurait été plus facile. Mais j'aurais pas pris l'air, j'aurais pas pris le soleil, j'aurais pas pu voir les volcans, j'aurais pas pu voir la glace sur les arbres, j'aurais pas pu voir ce magnifique paysage un matin où le lac, le plan d'eau à côté de la maison était gelé, il y avait une belle lumière, où j'ai fait une photo avec la lumière du soleil et tout, je me dis, oh, tain, c'est beau, c'est chouette, quoi. J'aurais pas pu le voir, ça. Et ma motivation pour courir tous les jours, c'est pas que de la motivation, en fait. C'est la source de motivation. En fait, on mise. Il y a beaucoup de choses qui motivent et beaucoup de choses qui démotivent. Mais il y a quelque chose qui est important aussi, ce sont les habitudes. Et moi, en fait, c'est devenu plus qu'une habitude, c'est devenu un mode de vie. Mon mode de vie, c'est de courir tous les jours. C'est de courir tous les jours. C'est me dire, même si c'est que 10 minutes, je sors 10 minutes de la maison. Et certains vont le faire en marchant. Moi, je vais juste le faire en courant, à petite foulée. Peut-être que c'est que à 8 km/h certains jours. Et peut-être que d'autres jours, ça va être à 10 ou 11 ou 12 km/h. Peut-être que certains jours, c'est du plat. Peut-être certains jours, c'est juste pour aller chercher un bout de pain. Voilà, il y a un jour, j'ai dit, je suis allé chercher une galette pour nous, pour qu'on fasse le goûter en famille avec une galette. Et ben, j'ai pris cette excuse-là, et je dis, bon, j'ai un kilomètre à faire, il me restait 1,5 km à faire. Je dis, ben, si je fais une petite boucle, si je fais 1,5 km, et je rentre par la boulangerie, hop, ça c'est fait en 10 minutes. À pied, si je vais à la boulangerie, je mets 5 minutes aller, 5 minutes retour, peut-être, quelque chose comme ça. Et là, si je l'ai fait en courant, j'allonge la distance, je mets 10 minutes aussi, à peu près le même temps, mais en même temps j'ai couru. Et donc, finalement, il y a des fois je me dis, tiens, j'ai une petite course à faire. L'autre jour, je suis allé poster un courrier, j'y suis allé en courant, par exemple. Pourquoi ? Il y en a qui iraient en voiture, moi j'y vais en courant. Je vais boire un café au marché, il est à 2,5 km, 3 km, j'y vais en courant, l'aller-retour, 5 km. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'ai envie de dire pourquoi pas. C'était un truc qu'on avait dit aussi, rappelez-vous, avec... comment il s'appelle ? Ah, j'ai perdu son nom. Notre ami qui court en tutu. Et on en parlait de ce truc-là, on disait Runner Life et 35. Et on disait, c'est pas plus con finalement d'aller boire un café à 18 bornes, d'aller faire... Parce que je l'ai fait un jour, d'aller faire 20 bornes pour aller boire un café, aller-retour, c'est pas plus con que quelqu'un qui va courir 20 bornes autour de sa maison et boire le café dans sa cuisine. Il y a rien qui est plus con, l'un ou l'autre. C'est deux manières de vivre sa course différemment. Mais en fait, je me rends compte que si par exemple demain, je devais aller acheter un magazine, je peux y aller à pied, mais je peux y aller en courant aussi. Et qu'en fait, ça va rentrer dans mon challenge de courir tous les jours. C'est ça. Et pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Il y en a qui vont dire c'est plus fatigant, tout. J'ai envie de dire pourquoi pas, j'en sais rien. En tout cas, le constat, c'est que 6 mois après avoir commencé à courir tous les jours, ma sciatique a quasiment disparu. Bon, des fois, elle se relance un petit peu, mais je le dis, il y a beaucoup d'émotionnel. Je n'ai plus mon pincement lombaire, je ne le sens plus du tout, je n'ai plus mal au dos, je peux marcher normalement, je peux reporter ma fille, je n'ai plus mal aux jambes, je n'ai plus de mes douleurs dans les jambes. Je vois le soleil tous les jours, enfin le soleil où je cours en tout cas tous les jours, je prends l'air tous les jours. J'ai plein d'idées, beaucoup plus d'énergie et je me sens beaucoup mieux. Et là, j'ai pu courir 509 km en un seul mois. Et c'est un truc que je n'avais jamais fait de ma vie jusqu'à maintenant. Jamais, jamais fait et que je ne pouvais jamais imaginer que je ferais un jour. Et rien que pour ça, je me dis, ça vaut le coup de continuer. Je sais pas ce que seront mes prochains challenges. Je ne sais pas mes prochains défis. Je l'ai dit, mois de février, c'est plutôt un défi créatif. Et puis un petit micro-défi. Mois de mars, il y aura un nouveau défi sportif. On verra lequel c'est. Est-ce que c'est du vélo, probablement. On verra. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je vais continuer à courir tous les jours. Et que, comme je le disais dans l'épisode fin août, quand j'ai expliqué ce projet-là, mon projet, en fait, c'est de le faire le plus longtemps possible pour reprendre l'image de Philippe qui disait qu'il veut être un vieillard galopant. C'est vraiment ça mon image. C'est de pour devenir un vieillard galopant, pour être en bonne santé le plus longtemps possible, pour être en bonne santé le plus longtemps possible, accompagner ma femme et ma fille. Je reprends ces images-là, donc j'ai partagé de dire que moi ma fille elle a 4 ans, je veux la voir grandir, je veux être en bonne santé, je veux pas regarder. Je vois dans mon entourage des gens qui ont 65 ans, 66 ans, 60 ans, qui sont physiquement totalement cassés, qui sont gros, obèses, en mauvaise santé, qui prennent le moindre rhume, qui sont pas bien et tout. Et à côté de ça, je vois des gens qui ont 70 ans, qui courent, qui font un peu de sport, qui bougent. Il y en a qui ont 80 ans, qui courent encore des marathons, qui ont fait des marathons des sables à 83 ans, etc. Et quand je choisis, je me dis, je n'ai pas envie d'être ce vieux-là, et j'ai envie d'être ce vieux-là. Et pour être ce vieux-là, il faut que je continue mon mode de vie tel qu'il est maintenant. C'est-à-dire ne pas aller dans l'excès tous les mois, d'aller courir autant tous les mois, ça non, mais de courir tous les jours un petit peu, c'est ça mon truc. De courir un petit peu tous les jours, prendre tous les jours l'air, prendre tous les jours ce temps-là pour moi, vraiment pour moi, c'est ça qui va me permettre pour moi de continuer et de correspondre à la fois à mon rêve d'enfant, d'être champion du monde, et à la fois à mon rêve de vieux, d'être un vieillard galopant. Voilà. Mathieu, t'as ta réponse. Vous avez tous votre réponse. Vous savez tous. C'était mon bilan. Fin de l'épisode. 2h20 que je vous cause. Ah là là. Eh ben, vous savez quoi? C'est, Audrey se reconnaîtra, elle me dira, c'est difficile, d'enchaîner sur notre défi après, quand on a fait ça. Mais oui, c'est difficile. Parce que, il y a une espèce de digestion à faire. Hier, je suis allé courir. 1er février, je suis allé courir 1 km, mon petit kilomètre 7. Il me paraissait au début simplement le fait d'enfiler les chaussettes me semblait tellement compliqué à faire, j'avais la flemme de le faire. Mais j'ai pas changé de chaussettes, j'ai sauté dans mes baskets et j'ai pris 1,6 km de kiff. Voilà. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, pour tous les jours. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos messages. N'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde dans le podcast. Je vous remercie tous pour votre soutien. Votre soutien pendant ce projet, ce soutien au quotidien. Je vous remercie aussi de comprendre pourquoi il y a de la pub sur le podcast. Je vous ai un petit peu expliqué que c'est aussi mon mode de vie, que j'ai besoin d'avoir la publicité sur le podcast. Je remercie aussi ceux qui soutiennent par Patreon. Je remercie ceux aussi qui feront appel à mes services pour différentes compétences. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un invité. L'épisode est déjà enregistré, donc je sais qui c'est l'invité. On va parler aussi d'un mode de vie, on va parler aussi un petit peu de ça. Et puis après on enchaînera avec d'autres invités. Et puis n'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des invités que vous avez envie d'entendre, à me dire qui ils sont. Et puis n'oubliez pas aussi la petite note 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify maintenant, puisque vous pouvez aussi laisser une note sur Spotify, pas de commentaire, mais une note. Et vous savez que ça aide les podcasteurs que je suis à se faire connaître. Merci à tous. Et merci encore pour votre soutien. C'était un chouette projet. Et je peux pas dire qu'il me manque. Peut-être un petit peu quand même. Allez. Ciao, ciao les sportifs. Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.